Nous sommes le jeudi 4 avril 2024 et vous écoutez le quatrième épisode de la huitième saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay, j'anime cette émission avec mon ami le journaliste Benjamin Favier. Aujourd'hui, c'est la seconde partie de notre grande masterclass dédiée à la gestion des couleurs. Après une première émission en saison 7, dédiée à la perception des couleurs et à leur reproduction sur un écran, nous nous intéressons aujourd'hui à la suite du processus et donc à leur restitution sur un tirage papier photo. Nous retrouvons Patrick Lévesque, photographe et journaliste spécialisé avec qui nous allons tout vous expliquer. Cette émission vous est présentée par MPB, qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Quatrième épisode de cette huitième saison du podcast. Comment vas-tu, mon ami Benjamin, par cette douce matinée printanière ?
Ah oui, il fait beau, on est bien, ça fait du bien. Ouais, j'ai passé un week-end assez studieux, je me suis replongé dans les archives de feu Le Monde de la Photo, qu'on connaît bien, avec notre cher invité, pour constater que la gestion de la couleur était décidément un marronnier. C'est un sujet qu'on a traité en long, en large, avec l'impression. Donc bon, j'ai essayé de refaire mes gammes, mes gamutes.
Est-ce qu'après toutes ces années, tu as enfin compris quelque chose ?
Je crois. Mais je ne restituerai pas aussi bien que Patrick. Et c'est pour ça qu'on est très heureux qu'il soit avec nous aujourd'hui.
Comment tu vas, Patrick ?
Bah écoute, ça va plutôt bien. Après un week-end de Pâques plutôt sympathique, printanier, à Fécamp, au bord de mer.
C'est bien.
Et bon, c'était studio aussi.
T'as mis les pieds dans l'eau ou pas ?
Je les ai mis de loin.
De loin. Bon, Patrick, je vais quand même te représenter pour nos auditeurs. Tu es photographe, distribué par l'agence CIPA Presse et journaliste spécialisé. Tu travailles ou tu as travaillé pour les plus importants médias photo, comme par exemple le magazine Le Monde de la Photo, pour lequel tu as travaillé pendant de nombreuses années, et plein d'autres médias. On peut citer par exemple Réponse Photo, Les Numériques et encore bien d'autres.
Le photographe.
Le photographe. Important. Oh là là, ça commence à remonter ça.
Ça remonte.
Au fil du temps, tu t'es fait une spécialité particulière des sujets qui entourent la pratique de l'impression numérique, les imprimantes, les papiers, les finitions et naturellement la gestion des couleurs. Tu signes aussi et parallèlement à un travail d'auteur avec une photographie abstraite et picturale, comme par exemple avec ta série Coq en stock, composée de cadrages serrés de coques de bateaux. Patrick, est-ce que tu as écouté notre émission de la semaine dernière qui, à mon avis, t'aurait intéressé ?
Alors, je vais te dire franchement, je ne l'ai pas écoutée, mais je vais l'écouter parce qu'elle traite notamment d'un photographe dont je connais un petit peu le travail, qui est peintre de la marine, entre autres. Donc, et j'étais avec un autre peintre de la marine.
Comme Jean Gomis, que tu connais.
J'étais avec Jean ce week-end, justement, à Fécamp. Voilà.
Bon. Et tu étais à Fécamp pour une raison
Je décrochais mon expo qui était accrochée là-bas depuis 2 mois. Et en fait, que je ne l'ai pas décroché parce qu'elle est prolongée d'une semaine. Voilà, j'en profite si vous avez du temps.
Allez
faire un week-end
Patrick
à Fécamp ou la semaine.
Elle est où l'expo exactement ?
Elle est dans le plus grand restaurant de Fécamp qui s'appelle La Boucane. C'est un lieu absolument superbe et qui est à côté des anciennes pêcheries. Et c'est pour ça qu'ils appellent du reste The Place to Be. Et c'est un endroit qui est sympa. On y mange très, très bien. Et il y a des expos toute l'année.
Okay.
Donc moi j'ai inauguré le bal cette année pendant 2 mois, il y a une photographe je crois donc, qui va s'inscrire derrière mon travail et puis d'autres tout au long de l'année.
Bonne saison pour les moules frites là ou...
Alors moules frites, il y a les huîtres, il y a... Non, ça devrait le faire. Pour ceux qui aiment le poisson et les fruits de mer, allez là-bas.
Bon, je le note.
On va se refocaliser un peu sur la photo. Je vous propose qu'on commence l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sigma lance son 3e 50 mm. Nikon annonce un zoom ultime à tout faire et Sony offre une valse de mise à jour pour certains de ses boîtiers. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Sigma vient d'annoncer une nouvelle optique hybride full frame déclinée en monture Sony E et L qui rejoint la série Art. Il s'agit d'un nouveau 50 mm. Particularité du modèle, il offre une ultra grande ouverture maximale de f1.2 associée à un diaphragme circulaire à 13 lamelles. L'objectif est composé de 17 lentilles réparties en 12 groupes et inclut 4 lentilles asphériques. Sa conception optique, selon les dires du constructeur, est optimisée pour réduire au maximum les différentes aberrations, offrir une très bonne homogénéité du piqué et supprimer l'effet de focus breathing. L'autofocus est assuré par une motorisation linéaire HLA et l'objectif offre une distance minimale de mise au point de 40 cm. D'un point de vue prise en main, Sigma fait très fort avec des mensurations contenues. Environ 11 cm de long, 8 cm de diamètre et un point inférieur à 750 g. On retrouve néanmoins, et comme toujours, une très belle qualité de construction protégée contre les intempéries, avec en outre la présence d'une bague de réglage manuel du diaphragme déclicable et un bouton personnalisable. Le nouveau Sigma 50mm f1.2 DGDN Art sera disponible le 18 avril et proposé au prix de 1 499 €. On continue dans l'univers des optiques avec Nikon qui vient de lancer l'objectif ultime à tout faire pour son système Z Full Frame, un impressionnant super télézoom 28-400mm. L'objectif équivalent donc à un zoom de 14,2 fois, peu sur le papier, tout faire, du paysage au grand angle 28mm à la photo animalière au 400 en passant par le reportage et le portrait. On retrouve des ouvertures maximales glissantes f4.8, une stabilisation optique VR, une motorisation AF-STM, une distance minimale de mise au point de 20 cm au grand angle, un rapport de grossissement maximal de 0,35 fois, une protection contre les intempéries, poussière et humidité, une bague de réglage personnalisable et des mensurations contenues, 14 cm de long replié et 725 g sur la balance. Le nouveau Nikkor Z 28-400mm f4.8 VR sera disponible également le 18 avril et proposé au prix de 1 549 €. Et enfin pour terminer, Sony met à jour ses A1, A9 III, A7S III et A7IV via un nouveau firmware. Au programme, l'arrivée de la certification C2PA pour la traçabilité des images sur les A1, A7S III et A7IV et la compatibilité avec l'application mobile Creators App qui permet de mettre à jour son appareil depuis un smartphone et de transférer ses images sur le cloud de Sony. Le Sony A1 se voit aussi doté d'une fonction de compensation du focus breathing, de nouvelles options de transfert FTP ainsi que d'une optimisation de la navigation tactile. Le Sony A7S III se dote pour sa part d'un nouveau mode d'enregistrement vidéo 4K DCI 24p et de la fonction de compensation de focus breathing. Enfin, le Sony Alpha 9 III devrait voir ses performances d'obturation boostées au 1/80 000e de seconde à f1.8, même en rafale. Les mises à jour de firmware des Sony A1, A7S III et A7IV sont gratuites et disponibles depuis le site du constructeur. La mise à jour de l'Alpha 9 III devrait arriver courant avril 2024. Bon, bah, pas mal de nouveautés hein, cette semaine, côté matos, côté produit, côté firmware pour Sony. C'est presque la plus grande nouveauté, cette valse de mise à jour. Sony ne nous avait pas habitués à cette politique auparavant.
Non, mais c'est super. Nikon non plus. Hein. Et la mise à jour colossale du Z8 qu'il y a eu en début d'année était aussi un bel exemple. Finalement, on va s'habituer. Plutôt qu'avoir peut-être plus de nouveaux boîtiers, on va avoir plus de mises à jour de firmware. Peut-être pas plus mal. Fait durer
Il y a l'effet Zio qui arrive aussi. J'ai l'impression que ça booste pas mal de petites choses chez les fabricants. Mmh. Mise à jour, optique.
Ouais, en tout cas sur les performances, notamment du côté de l'AF, etc. Puis côté optique, on voit de très belles choses. Ce Sigma 51-2, moi, il me fait de l'œil. Bon, c'est une marque dont j'aime beaucoup l'ergonomie des optiques de manière générale, particulièrement la gamme Art. Et c'est vrai que être parvenu à faire une optique un poil plus légère que le Sony G-Master, qui est déjà magnifique, hein, le 51-2, c'est une petite prouesse et une tarte de l'essayer, celui-ci.
Et un 28-400mm, ça vous parle, une optique comme ça? Parce que moi, je suis toujours un peu sceptique, finalement, sur ce type d'objectif, surtout à ce prix-là, parce que c'est quand même 1500 balles l'affaire, quoi.
Oui, mais quand tu regardes déjà un zoom télé, moi, mon optique de base, c'est le 70-200 chez Canon. Enfin, je ne dis pas qu'il n'y a que celui-là, mais c'est déjà une optique dont je me sers beaucoup. Quand on a du range et si on a une vraie qualité optique, ça peut quand même permettre pour beaucoup d'alléger un peu le fourre-tout. d'avoir, et d'éviter d'avoir à changer d'optique. On sait que les changements d'optique, quand on est sur le terrain, c'est synonyme des fois de rentrée de poussière ou de choses comme ça. Donc, je pense qu'une focale qui a du range comme ça, qui a des ouvertures qui ne sont pas si mauvaises, bah, si vraiment c'est une bonne optique, ouais, elle peut avoir du succès. Et elle n'est pas si chère que ça, finalement.
Oui, quand tu dis range, c'est plage de focale, ouais, hein, pour ceux qui n'auraient pas la trad. C'est vrai, d'autant que les bridges ont un petit peu disparu du paysage. Donc finalement, c'est des optiques à tout faire. Peu lumineuses, évidemment. Bon, elles ont souvent mauvaise réputation, ou du moins sur les réflexes, elles avaient plutôt mauvaise réputation en termes de performance optique. Il y a quand même eu une bonne surprise hein, du côté de chez Nikon, parce que le 24-200, qui existe déjà et qui est une excellente optique transstandard, pour le coup, a été une très bonne surprise. Moi, je suis un peu sceptique comme ça, mais il faut juger sur le papier. Donc, on attendra les tests.
Il faut laisser sa chance au produit.
Exactement, ouais, complètement. Il faudra voir ce que ça donne, notamment à 400 mm. Surtout que les capteurs les plus définis sont assez exigeants. Hein. On pense aux Z8. Et puis, c'est finalement une optique qu'on attendrait plus du côté des Z APS-C. Ouais. On aurait pu attendre un 18-300, 18-400, quelque chose comme ça. C'est surprenant.
C'est encore plus dingue, hein, parce que ça fait un équivalent 600 mm.
Oui, mais il y en avait du temps des Nikkor Reflex. Donc, c'est étonnant de voir ça. Mais pourquoi pas, faut attendre les tests.
Oui, je pense qu'il faudra vraiment voir à l'usage, mais il a l'air alléchant quand même.
Alors, tant qu'on en est parlé de Nikon, il y a une bonne nouvelle, je pense, pour les utilisateurs d'hybrides Nikon, puisque Tamron vient également d'annoncer une déclinaison de son incontournable, célébrissime 28-75 mm G2 f2.8 constant en monture Z, et puis proposer un tarif doux, 990 €. Ouais,
le tarif est très attractif.
Ça, c'est une super nouvelle et on espère que Tamron va continuer à décliner son trio magique d'optiques F2.8 constant en monture Nikon Z. Ok, Benjamin, est-ce que tu as repéré d'autres actualités cette semaine ?
Écoute, j'ai vu que Shimoda lançait une belle gamme de sacs photo. On est un petit peu des accros, hein, des groupies de fans ici de sacs photo autour de cette table. Donc, je vais regarder ça de près. En fait, c'est une campagne de financement participatif qui a été couronnée de succès puisque la gamme voit le jour. Et je suis curieux de mettre la main sur ces modèles-là pour les essayer. Il y a plusieurs litrages, hein, 20, 25, 30. Et j'aime beaucoup les attributs, on va dire le petit passant pour le trolley,
c'est
très bien conçu, il y a des poches dans tous les sens, une housse anti-pluie qui n'est pas optionnelle, c'est bien.
Ils sont beaux.
Et ils sont beaux. Alors,
beau et discret, je trouve que pour un sac photo, ce qu'on aime bien pour un sac photo, c'est un peu se fondre dans la masse, et je trouve qu'ils se fondent plutôt bien dans la masse.
En tout cas, ils ne font pas sac photo. Ouais. Hein, ce qui plaira peut-être aux photographes qui prennent souvent le train et qui ont peur de se faire piquer leur matos. Il y a quand même, parmi les deux coloris, je crois qu'il y a gris anthracite et il y en a un qui est plutôt sable, je crois qu'ils appellent ça scène en anglais, donc un peu dans les tons jaunes. Mais j'ai lu dans les commentaires, dans les FAQ des premiers gens qui ont reçu leur compensation au travers de cette campagne de financement, qu'on était plus sur un jaune qui tire un peu vers les verts, on n'est pas vraiment sur du sable. Là. Donc, faudra regarder.
À voir.
Mais c'est vrai qu'ils sont, plutôt jolis. Mais c'est une marque que j'aime bien.
Oui, ils ont bonne réputation de toute façon. Donc,
Distribué en France par nos amis de Digit Access.
Ouais. Ok. Allez, on conclut le Flash Actu cette semaine là-dessus. Et Benjamin, je te laisse la parole puisque c'est le moment de ta chronique hebdomadaire, de ta story. Et tu nous parles aujourd'hui d'une BD qui met à l'honneur une photographe dont on parle beaucoup ces dernières années. La story vous est présentée cette semaine par le laboratoire photo Whitewall.
La vie mystérieuse de la photographe Vivienne Mayer, dont l'œuvre fut découverte après la mort, a déjà fait l'objet de nombreux récits. Parmi ses ouvrages, la biographie signée Françoise Perron, présidente de l'association Vivienne Mayer en France, fait figure de référence. Et c'est elle qui a accompagné Émilie Plateau et Marzena Soa dans l'élaboration de leur bande dessinée intitulée « Vivienne Mayer, clair-obscur ». Une autre manière de découvrir le parcours singulier de la nounou photographe. Le récit s'ouvre à Chicago en 1963. Cela fait 7 ans que Vivian Mayer est arrivée dans la grande métropole du Michigan, tandis que 4 ans plus tôt, elle effectuait un tour du monde. Sous les traits épurés d'Émilie Plateau et les dialogues ciselés de Marzena Sowa, on découvre une femme au caractère bien trempé, un Rolex flex en permanence autour du cou, alors qu'elle s'occupe des 3 garçons d'une famille bourgeoise, les Gainsbourg, dont elle est la gouvernante pendant 17 ans. Engagée, elle suit l'actualité en lisant la presse. Elle tient un discours de vérité aux enfants, même devant leurs parents. Au lendemain de l'assassinat de Martin Luther King, elle se promène avec l'un d'entre eux dans les quartiers défavorisés, ravagés par les émeutes survenues la veille, confiant au passage un appareil photo. De son côté, elle s'attarde sur tous les individus, les détails qui constituent l'envers des décors. Elle mémorise le monde dans sa beauté et sa laideur. 12 poses par jour, c'est la limite qu'elle s'est fixée. De temps en temps, elle réalise des autoportraits devant le miroir de sa chambre de bonne. Elle fréquente régulièrement Central Camera, la mecque des boutiques photos à Chicago, pour refaire le plein de films couleur et noir et blanc, 120 ou 35 mm. Certaines pages virent au sépia, des flashbacks qui nous ramènent en France, dans la vallée du Champsaur, où elle a débarqué à l'âge de 6 ans. Nous laisserons aux lecteurs et tous ceux qui ne seraient pas familiers de la vie de Vivian Mayer s'imprégner de la narration colorée et dépouillée de cette BD jusqu'à l'émouvant épilogue. Alors qu'elle a plus de 70 ans, elle erre dans Chicago, sans argent, sans logement fixe, des cartons pleins les bras, lourds d'une vie bien remplie, qu'elle répartit dans des garde-meubles. Ces mêmes cartons que l'agent immobilier John Malouf acquiert lors d'une vente aux enchères en 2007, avant de révéler au monde le talent de cette photographe libre, disparue entre-temps dans l'anonymat.
Et elle est dispo, cette BD, déjà ?
Elle est dispo en librairie depuis fin février aux éditions d'Argo. Elle coûte 19,95 € pour être précis. Faut savoir que ça fera 15 ans le 21 avril prochain qu'elle est décédée, Vivian Mayer. Donc elle nous a quittés en 2009 à l'âge de 83 ans. Et pour la petite histoire, donc ces cartons avaient été découverts de son vivant en 2007. L'histoire a été racontée, re-racontée. John Malouf avec 2 autres personnes ont acquis ces 5 gros cartons qui étaient dans des garde-meubles aux enchères. Et des négatifs ont été tirés, développés. Puis finalement, les gens se sont rendus compte de la valeur, ou en tout cas de la richesse et de la qualité photographique, un petit peu sur le tard. Et elle était décédée entre-temps. Et le phénomène Vivian Mayer et tous les témoignages qui surgissent, notamment des enfants de la famille Gainsbourg, dont Matthew, un des enfants qui l'a logé sur la fin de sa vie, on l'apprend dans la BD, pas mal de choses très touchantes, ont permis d'en connaître un petit peu plus sur sa vie et aussi notamment au travers de Françoise Perron, qui est du coup directrice d'une association, présidente d'une association consacrée à Vivian Mayer qui a vécu en France. Donc c'est vraiment un parcours assez fascinant, assez étonnant. Bon, il y a plein de manières de se renseigner un petit peu sur sa vie. On peut trouver des podcasts, on peut trouver un docu. Il y a donc ses livres, il y a l'excellente biographie Vivian Mayer en toute discrétion de Françoise Perron. Il y a aussi un essai Une femme en contre-jour de Gaëlle Josse qui est très très bien écrit. Et je trouve que cette BD, c'est comme toujours avec les BD, c'est un moyen plutôt ludique et sympa de s'informer et de le faire peut-être plus rapidement.
Mais c'est assez surprenant quand même de voir à quel point la bande dessinée se prête très bien aux histoires de photographes. Hein. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une BD sur un photographe. Il y en a plein. Il y en a plein, en fait.
Oui, il y en a plein. Moi, j'ai découvert à l'époque le photographe, ouais. Évidemment, hein, qui était...
Des références en la
matière. Oui, la trilogie consacrée au photographe, c'est vraiment fabuleux. Donc, un épisode de plus. Toi, tu le vois comment ça, Patrick, ce côté? Moi, ça me fascine, c'est-à-dire on découvre des négatifs qui n'ont pas été finalement développés de son vivant, pour la plupart, hein, par l'artiste elle-même. Qu'est-ce que tu ressens, toi, en tant que photographe? Parce que, est-ce qu'elle voulait, elle, que son œuvre soit montrée comme ça? Tu vois, qu'est-ce qu'elle en aurait pensé? Bon, ça, on ne peut pas le savoir, mais...
Alors, moi, je me pose la question autrement, mais je me faisais cette réflexion pendant que tu déroulais la story. C'est que, moi, ce qui m'attriste, en fait, je dirais presque, c'est qu'il y a énormément de talents, en fait, qu'on découvre vraiment une fois qu'ils sont morts. Moi, souvent, dans mes discussions avec des amis, des copains, des gens que je rencontre, je disais, mais quelle que soit la forme de l'art, déjà, je dirais, un artiste, il faut qu'il soit reconnu avant qu'il soit mort. Et en fait, on se rend compte, à l'exemple de Vivian Maier, mais il y en a eu beaucoup d'autres, hein, c'est que des gens émergent, on se rend compte de l'immensité du travail. Vivian Maier, c'est énorme quand on regarde bien. De son vivant, elle n'en aura, je dirais, jamais vraiment profité. Elle a œuvré X années dans l'ombre. Alors, je ne sais pas après comment elle a fait, comment d'autres ont fait. Est-ce qu'ils ont essayé de se faire connaître ou pas? Est-ce qu'elle avait envie de se faire connaître ou pas? On ne le saura jamais. Mais on découvre d'énormes talents morts. Ça, ça m'attriste beaucoup pour notre métier.
Oui, ouais, en tout cas, c'était une... Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y avait eu Instagram, si elle aurait posté, tu vois, par exemple, ses autoportraits. Mais on voyait que c'était constant. Et en tout cas, au travers de la BD, on imagine que c'est plutôt basé sur des faits réels, puisque c'est très documenté. Mmh. Et sous la supervision de Françoise Perron, on la voit en permanence faire des photos, mais comme une photographe, entre guillemets, avec tous les guillemets, mais avec toute la noblesse aussi du terme, avec cette dimension amateur, quoi.
Mais, oui, mais elle n'empêche que... Enfin, amateur, oui, on va dire amateur, parce qu'elle n'en a jamais vécu.
Voilà.
Mais ouais. Elle a savamment, pendant toute sa vie, construit une œuvre qu'on découvre au hasard.
Très riche, avec divers thèmes.
Cartes, voilà, ouais. Beaucoup de thèmes abordés, et on découvre en fait un patrimoine énorme. Elle a œuvré pendant toute sa vie, peut-être volontairement dans l'ombre, peut-être qu'elle faisait ça que pour elle, ou pas, on ne sait pas, mais on découvre un travail colossal qui mérite vraiment d'être montré, d'être encore plus connu que ça ne l'est aujourd'hui.
C'est déjà quand même déjà,
qui est déjà
bien connu.
Oui, mais c'est connu sur le tard et c'est dommage. Ouais. Moi, c'est ce qui m'attriste pour beaucoup de photographes, puis même des photographes que je connais aujourd'hui, donc on ne connaît pas le travail. Quand on voit le talent de ces gens, on se dit, mais mince, pourquoi ils ne sont pas connus, quoi. Et je me dis, j'aimerais qu'ils soient connus avant qu'ils soient morts.
Ok. Merci Benjamin pour cette story. Je vous propose qu'on fasse une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer cette grande discussion avec toi, Patrick, sur la gestion des couleurs à l'impression. On revient dans quelques secondes après une courte publicité.
MPB, partenaire historique du podcast Faut pas pousser les ISO, est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Chaque année, c'est près de 400 000 appareils photo ou vidéo d'occasion remis en circulation sur leur site. Ils nous ont fait confiance pour cette nouvelle saison du podcast. Le lien est en description, vous pouvez découvrir sans plus attendre. Bonne écoute.
Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec le photographe et journaliste spécialisé Patrick Lévesque pour parler de la gestion des couleurs à l'impression. Alors, il y a quelques mois, dans la première partie de cette grande émission, nous nous étions arrêtés, Patrick, à la reproduction des couleurs sur un écran. Nous avions parlé des écrans dits art graphique, qui sont plébiscités pour leur précision et la richesse des couleurs qu'ils sont capables de reproduire. Nous avions aussi introduit les notions d'espace couleur et de gamut, qui vont être très importants aujourd'hui, puisqu'elles sont en quelque sorte le point de départ de notre masterclass. Alors peut-être pour commencer, est-ce que tu peux rapidement nous rappeler ce qu'est l'espace couleur associé à une photo et à quoi correspond le gamut d'un écran ?
Et tu peux nous mettre peut-être le décompte du quiz, tu sais.
Et oui, alors là, en plus, tu demandes de faire court sur des sujets comme ça. Non, mais on va essayer de faire court. En fait, effectivement, quand on va faire une photo, alors en fait, on va aborder ça de trois façons différentes. C'est-à-dire qu'en gros, un appareil photo va nous permettre plusieurs choses. On va travailler, alors ce que je conseille à tout le monde, c'est de travailler en RAW. Pour la simple et unique raison, déjà, c'est que dès le départ à la prise de vue, on s'affranchit de cette notion d'espace colorimétrique. C'est-à-dire ouais. qu'en gros, en RAW...
Même si on a coché Adobe RVB ou SRVB...
Mais on va y venir. Pourquoi on coche Adobe RVB ou SRVB ? C'est simplement qu'on a besoin quand même de visualiser nos images sur le petit moniteur de notre appareil photo. On part du principe qu'ils en ont tous. Et en gros, tous les pré-réglages qu'on va avoir mis dans notre appareil photo, l'espace qu'on va avoir défini dans l'appareil va nous permettre de voir quelque chose. Après, si on travaille qu'en JPEG, effectivement, il faut essayer quand même d'inscrire les images dans un gamut. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un gamut ? En fait, c'est une notion d'espace colorimétrique qui va définir toutes les couleurs que va être capable, là, on va dire, d'enregistrer un appareil photo. Alors, vous allez me dire, mais si un appareil photo, il fait Adobe RVB et SRVB, je prends quoi ? Alors, je dirais qu'à la base, si on fait que du JPEG, mettez-vous dans l'Adobe RVB, comme ça vous êtes sûr que vous êtes dans l'espace le plus grand possible qui soit, déjà. Et si vous vous dites que vos images vont être uniquement qu'à destination du web ou des choses comme ça, ouais, on pourrait s'affranchir et se dire SRVB. Moi, je conseille d'oublier le SRVB, de se mettre en Adobe RVB direct. Et le principal conseil, c'est de se mettre en RAW. Et c'est une fois qu'on va traiter nos images dans un logiciel, en fait, qui parfois va lui-même avoir son propre espace, justement, déjà de travail. C'est à l'export du fichier, quand on va vouloir faire un JPEG pour l'impression ou envoyer un labo, c'est là qu'on va définir l'espace dans lequel on va vouloir travailler.
Ok.
En gros, hein, on va le schématiser comme ça.
Et le gamut d'un écran ?
Bah, c'est un petit peu la même chose. Enfin, dire que le gamut d'un écran définit tout ce que l'écran va pouvoir reproduire en matière de couleur. Donc, on dit que mon écran est, c'est le grand truc qu'on recherche, full Adobe RGB. Mmh. C'est-à-dire qu'il est capable de reproduire tout l'espace Adobe RVB. Alors, les fabricants d'écrans, en général, ils disent 99,9.
Oui, mmh. Histoire de...
Comme ça, s'il n'était pas 100%, j'ai pas d'embrouille. En général, pour tous les écrans que j'ai pu tester, ils sont même au-delà, en théorie, de l'Adobe RGB. Ils font 105, 106. Mais voilà, ça définit, en gros, tout ce que l'écran est capable de reproduire. J'insiste sur une chose que je dis toujours, c'est pas parce qu'un écran est full Adobe RVB qu'il est bon. Ça, on va peut-être en reparler après. Hein,
oui, et puis bon, il faut regarder la première émission, voilà, on en a beaucoup parlé.
Écouter la première, on en a parlé.
À la fin de l'émission.
Mais
ouais,
voilà, pour expliquer ce qu'est le gamut, un écran, il est capable d'afficher le full Adobe RVB. Pour les vidéastes, en HD ou en 4K, il est Rec 2020 ou Rec 709, etc. Ce sont des espaces qui correspondent, en fait, aux normes de la vidéo.
Bon. Alors maintenant que ces éléments sont bien posés, on va essayer d'expliquer le plus simplement possible quelle est l'importance de la gestion des couleurs au moment de l'impression. Et pour cela, on vous propose d'écouter le témoignage d'Arnaud Frisch, également comme toi, grand spécialiste de la gestion des couleurs, et qui propose sur son site internet guide-gestion-des-couleurs.com de nombreux tests de produits autour de cette thématique.
Tout le processus de gestion de la couleur a été inventé pour conserver, si possible, la même couleur de ce que l'on a photographié jusqu'à l'utilisation finale, que ce soit un usage web sur un écran et évidemment un tirage. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'historiquement, c'est même là qu'on avait le plus de problèmes. C'est-à-dire que quand on comparait ce qu'on avait vu, ce qu'on avait pris en photo et ce qu'on cherchait à imprimer, il y avait vraiment énormément d'écart, à tel point que même quand on n'était pas tatillon, on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc, le processus de gestion de la couleur, tous les outils, surtout liés à la gestion de la couleur, ont été inventés pour rendre la vue à un appareil photo, rendre un écran correct en très bon grâce au calibrage, et évidemment avec l'impression, ça permet de parfaitement adapter, de parfaitement corréler une imprimante, un papier, qui a ses propres caractéristiques, de telle sorte qu'on ait à la fin un tirage qui, même, j'insiste, quand on n'est pas tatillon, va vraiment vous rendre votre imprimante comme si elle était très bonne à la sortie du carton. Et en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Eh bien, systématiquement, quand les gens s'intéressent à la gestion de la couleur et veulent aller plus loin, c'est tout simplement que de passer à un tirage qui paraît très correct, on a juste besoin sur une ou des couleurs d'avoir un rendu beaucoup plus fidèle à ce qu'on a à l'écran, ciel bleu, une robe, la couleur d'une robe, la couleur d'une fleur. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que le tirage brut était très bien pour monsieur et madame tout le monde, mais si on a une intention, c'est-à-dire qu'on a vu une certaine couleur, un certain ciel bleu, et qu'on veut ce même ciel bleu, à ce moment-là, il faut calibrer. Même en 2024, il faut calibrer, les imprimantes sorties d'usine ne sont plus suffisantes.
On serait finalement à quoi bon passer des heures et des heures en retouche, en post-production, pour obtenir au final, sur son tirage, des couleurs qui ne correspondent pas à ce qu'on a vu sur son écran, à ce qu'on a vu dans la nature quand on l'a photographié, ou même à ce qu'on a imaginé.
C'est vrai que alors si on part effectivement, on part de la fin en fait, on va dire du tirage. La question à se poser, c'est comment déjà être sûr que mon tirage que j'ai imprimé est juste. Ça sous-entend déjà, on a parlé d'écran, on en a parlé dans la précédente émission. L'élément le plus important de notre chaîne graphique, c'est l'écran. Mmh. Donc après, comme je le dis souvent, Adobe RVB ou pas Adobe RVB, Arnaud le précisait dans ce qu'il vient de dire, ce qui importe, c'est que l'écran soit fidèle. On a parlé de gamut tout à l'heure. Mmh. Le gamut d'un écran, c'est une chose, mais s'il a un grand gamut, mais qu'il n'est pas fidèle dans la reproduction, ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Ouais, ouais.
Et ce qui suppose de mettre à jour la calibration, du coup.
Alors, déjà, un écran, alors, certains haut de gamme, sorties de boîte sont franchement étonnamment ultra fidèles. Enfin là, on parle d'écrans qui coûtent 3 000 ou 4 000 euros. Il y a d'autres écrans un peu moins chers, mais qui sont chers, qui sont aussi très fidèles. Mais on part du principe qu'on va calibrer son écran pour s'assurer que ce qu'il est capable de montrer soit juste. Ça, c'est déjà fondamental. À partir du moment où on est sûr qu'on travaille sur un écran qui montre des couleurs justes, alors il ne va pas forcément nous montrer toutes les couleurs de notre image. Hein. Ce qu'il montre est juste, on est sûr que si on travaille avec une imprimante qui est calibrée ou avec laquelle on utilise des profils, bah, on est sûr d'une véritable cohérence. D'accord ? Ça, c'est super important. Arnaud disait tout à l'heure, j'ai un ciel bleu, je veux absolument avoir ce ciel bleu sur mon tirage. Alors, on va être dans limite déjà les limites de ce que va être capable de nous montrer notre écran, c'est-à-dire le bleu. Peut-être que ce bleu-là, bah, par rapport à ce que me montre mon écran, il est peut-être un petit peu au-delà. D'accord ? Peut-être que le papier que je vais utiliser, bah, selon les caractéristiques du papier, un papier photo brillant, un papier barité, un papier mat, c'est des caractéristiques différentes. Il faut s'enlever déjà de l'esprit d'une chose, calibration ou pas, entre ce que va nous montrer un écran aussi bon qu'il soit et une imprimante aussi bien calibrée qu'il soit, il y aura toujours un petit écart. Il ne faut pas se voiler la face. La gestion de la couleur ne résout pas tout, ne va pas faire d'un mauvais écran un très bon écran, etc. etc. Et il faut savoir justement les limites de ce qui est capable de nous montrer notre écran et les limites des papiers. C'est vrai pour les papiers chez Donc, c'est vrai en labo, etc. etc. Donc, il faut déjà garder ces notions à l'esprit. C'est très important.
Bah, les limites, finalement, c'est ce qu'on a dit aussi, c'est les capacités à reproduire les couleurs. Donc, exactement. C'est le gamut. C'est parce qu'il faut préciser que chaque périphérique, papier, impression, imprimante comprise, ont leur gamut propre.
Bien sûr, et en parlant d'impression, il faut savoir aussi qu'un papier, c'est-à-dire une référence d'un papier, on va en prendre un au hasard, le Photorac Barita d'Anne Muleux, par exemple, bah, sur une P900 d'Epson ou sur la Pro 1000, ou... il a des rendus différents. C'est pourtant bien le même papier, mais en fonction de la machine et des encres avec lesquelles on va l'utiliser, il n'aura pas forcément le même rendu. Donc, c'est des choses qu'il faut bien garder à l'esprit.
C'est-à-dire qu'il y a plein de paramètres qui peuvent influer sur ce fameux gamut qu'on va appeler de reproduction des couleurs. Donc, on a, comme tu l'as dit, la technologie d'impression, le type d'encre, le papier. Je ne sais pas s'il y a d'autres paramètres encore qui peuvent intervenir.
Non, ce sont les paramètres essentiels. On va voir qu'il y a des incidences après d'autres choses. Mais les paramètres essentiels, c'est de se dire déjà que selon l'imprimante, j'ai X couleurs, j'ai des 6 couleurs, j'ai des 8 couleurs, j'ai des 10 couleurs. Ça veut bien dire qu'entre 6, 8 et 10, il se passe des choses. Donc, ça veut dire que le même papier va être capable de s'exprimer le plus pleinement possible, mais il faut bien avoir ça à l'esprit. C'est très, très, très important. Après, il y a les conditions d'observation aussi d'un tirage qui vont faire que, hein, selon l'illuminance, enfin la température de couleur, selon l'intensité même d'une lumière, tout ça influe aussi sur le rendu global, hein, colorimétrique, etc., etc.
Jusqu'à quel point on peut anticiper justement par rapport à ça, en fonction du gamut donné par exemple ou indiqué par le constructeur et par le papetier?
Bien sûr. Alors, on part d'un principe que notre écran a été calibré, donc il est fidèle. Il y a un principe qu'on utilise qui s'appelle l'épreuvage écran, ou soft-proofing pour ceux qui connaissent le terme en anglais. Ça va nous permettre de simuler sur notre écran, avec le logiciel de retouche qu'on utilise. Alors, ce que je vais dire là est vrai pour Photoshop, c'est vrai pour Lightroom, c'est vrai pour DxO Photolab, etc. Tous ces logiciels ont cette possibilité de pouvoir simuler à l'écran le rendu du papier qu'on va utiliser. C'est important pour deux raisons. D'abord, ça permet d'anticiper à moindre coût, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'imprimer un tirage de référence. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, ça peut aussi nous donner les moyens, dans certaines limites et puis dans ce qu'on est capable de faire aussi, de pouvoir se dire, bah, tiens, je peux encore peut-être un petit peu intervenir sur mon fichier et essayer. Je vois que par rapport à ce que j'avais décidé qui était bon quand j'ai fait ma post-prod, quand je fais la simulation écran, je dis, merde, j'ai perdu un peu de couleur, j'ai perdu un peu de pêche, un peu de contraste, etc. Je peux encore rejouer. Alors, on part du principe qu'on travaille sur une copie d'écran ou sur un fichier RAW, là, c'est non destructif. Ça permet d'anticiper. Ça ne simulera pas le rendu physique d'un papier, c'est-à-dire la matière, hein, bien entendu, que ce soit un papier brillant, mat, un papier qui a un peu de surface, etc. Ça ne le simule pas. Mais ça permet de prévoir et d'anticiper le rendu des couleurs et en même temps le blanc du papier, parce qu'on peut aussi le simuler.
Ok. Donc du coup, ce qui est associé à ce gamut, hein, dont on est en train de parler, imprimante plus papier, c'est un profil ICC. Mmh. On le trouve où, ce profil ICC ? Qui le donne? Qui le fait? Comment ça se passe?
Alors, si on repart de l'écran, l'écran, c'est nous qui le créons. Mmh. C'est-à-dire que quand on va faire notre calibrage d'écran, à la fin de l'étape, qu'on soit sur Mac ou PC, hein, le logiciel va directement mettre le profil ICC qui va bien. À l'endroit qui va bien, pardon. Dans le cadre du papier, on va avoir deux possibilités. Soit je m'en remets, alors on parle de papier indépendant. Quand on installe une imprimante et qu'on n'utilise que les papiers d'Epson ou les papiers de Canon avec sa machine Epson ou Canon, les profils sont intégrés au pilote. C'est déjà dedans, c'est installé à l'installation. Pour les profils des papetiers, on va avoir deux possibilités, même trois, on va dire. Premier choix, qui n'est pas des plus idiots, je vais sur le site du papetier, j'ai une correspondance par rapport à la machine, les papiers, je prends le ou les papiers dont j'ai besoin, ça va me donner les profils, je vais télécharger les profils, et une fois sur mon ordinateur, bah, sur Mac, je vais l'installer moi à la main dans le dossier qui va bien, le dossier ColorSync, et sur PC, je fais un double clic et théoriquement, ça va l'installer dans le dossier Color tout seul.
Donc les constructeurs de papier mettent à disposition des profils ICC pour toutes les machines qui existent.
Exactement. Alors, toutes les machines. Surtout les machines photo, si vous avez une petite bureautique 4 couleurs, ouais, cherchez pas pour une petite... On parlait de la machine de Benjamin tout à l'heure, sans déprécier la qualité de cette machine, mais c'est pas une machine photo, il n'y aura pas de profil pour
cette
machine.
Qu'est-ce que tu veux dire là? Rien. Parce qu'on parlait du multifonction.
Non, mais
on ne va pas considérer au même
titre. Mais il y a des multifonctions. Epson, par exemple, a aujourd'hui une machine EcoTank, le T8550, c'est un multifonction photo, qui a 6 couleurs, cyan, magenta, jaune, noir, un noir pigment et un gris. Pas tous les fabricants, mais la plupart des fabricants de papier qui ont pignon sur web, on va le dire comme ça, proposent les profils pour cette machine. Machine-là. Voilà. D'accord. Alors évidemment, hein, les machines photo, P700, la Pro 300 de Canon, la Pro 1000, la P900, puis toutes les autres machines, bien entendu, ont leur profil. Et il y a aussi des déclinaisons pour certains fabricants de papier de profils adaptés à certains RIP.
Ok. Et donc, si on ne trouve pas ces profils ICC alors, sur le papier?
Si on n'a pas ces profils, maintenant, on peut les avoir, mais on peut aussi vouloir faire soi-même ces profils. Donc là, ça impose l'acquisition d'un outil un petit peu particulier. Au même titre qu'on a un colorimètre pour faire la calibration d'écran, là, on va investir sur une solution autour d'un spectrocolorimètre qui va nous permettre, en gros, de faire la même chose qu'on ferait avec un écran. Mais là, en fait, au lieu d'envoyer des patchs à l'écran, on imprime des séries de patchs sur du papier qu'on va mesurer. Et selon le même principe que l'écran, le profil va aller s'installer dans les dossiers qui vont bien et on pourra les utiliser après.
D'accord, c'est très bien, docteur.
Attends. Troisième procédé. Bon, ça coûte cher quand même, un spectro. Bah, certains fabricants de papier, je pense à Permajet par exemple, vous téléchargez une charte, vous l'imprimez, vous envoyez chez eux la charte et ils vous renvoient le profil.
Ah ouais.
Ouais. En France, on a quelqu'un qui s'appelle, que beaucoup de gens connaissent, Christophe Métairie. Christophe Métairie propose le même principe. Vous imprimez une charte, vous lui envoyez la charte et il vous fait des petits profils sur mesure aux petits oignons.
Qu'est-ce que tu préconises, toi, de manière générale? C'est de faire confiance plutôt aux profils ICC fournis par les constructeurs qu'on peut télécharger ou d'aller faire les siens? Et si oui, du coup, comment procéder pour vraiment les faire? Est-ce que ça vaut le coup, en gros, d'investir dans un spectro?
Alors, ça dépend de quel point de vue on se place, on va dire. Pour une grande partie des utilisateurs, les profils mis à disposition par les fabricants de papier, ils sont quand même pas idiots non plus, ils sont quand même maintenant de qualité. Ils utilisent des outils de mesure qu'on pourrait utiliser nous, ou des outils, voire même des solutions beaucoup plus professionnelles. Et on a vraiment des profils qui sont très, 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 très corrects. Maintenant, pour des photographes qui sont un petit peu plus tatillons, je sais pas comment on va dire, mais qui veulent aller plus loin, ça peut être intéressant de faire soi-même ses propres profils pour une raison très simple, un petit peu à l'image où à l'époque on achetait nos péloches par l'eau. Pourquoi on achetait nos péloches par l'eau? Parce qu'on était sûr que quand on partait en reportage avec 50 péloches, ça venait du même lot et de la même planche de film à la fabrication. Bah, les lots papier sont un petit peu pareils et on peut raisonnablement se dire qu'entre un couchage X et un couchage Y, il peut y avoir une petite différence. Ouais. Donc, je dis bien qu'on est très tatillon, hein, parce qu'il faut vraiment avoir l'œil. Hein. Mais on a intérêt à faire soi-même ses profils. Voilà. Bon. Maintenant, il y a certains papiers, honnêtement, des papiers japonais par exemple, je recommande de bien mettre, faire soi-même ses profils quand on le peut. Mais ça implique un investissement.
Pour quelle raison ? La Wagami, par exemple ?
La Wagami, moi, je sais qu'au début d'Awagami, moi qui utilise ces papiers, par exemple le Bizan, tu sais que je suis amoureux de ce papier, les premiers profils, les premières générations de profils qui étaient fournis par Awagami, c'est pas génial. Je me suis dit, c'est quand même bizarre, c'est un chouette papier, j'ai vu des résultats intéressants. J'en ai parlé donc à l'implantateur. Il m'a dit, ouais, mais là, il y a eu des profils quand même sur mesure qui ont été faits. Ah bah, je me suis dit, bah, je vais faire moi-même mais aussi les profils sur mesure. Et oui, il y avait vraiment un gap.
Alors du coup, pour faire ses propres profils ICC, comme tu l'as dit, il faut investir dans un matériel spécifique, ce qu'on appelle un spectrophotomètre. On écoute de nouveau Arnaud Frisch nous parler des solutions qui existent à l'heure actuelle sur le marché.
Alors aujourd'hui, sur le marché, il existe deux produits plutôt amateur averti, voire pro. Moi, je les utilise. Il y en a un que j'aime énormément. Et après, il existe un modèle beaucoup plus haut de gamme, beaucoup plus cher. Donc, vous avez dans les deux grandes marques très connues aujourd'hui, dès qu'on parle de calibrage, vous avez Calibrite qui fait un produit qui est très connu parce qu'il existe depuis très longtemps, parce qu'il est basé sur un spectrophotomètre. Donc, c'est un vrai appareil d'analyse de la lumière au niveau par la mesure de la longueur d'onde. Donc, c'est extrêmement précis. Il a été démocratisé sous le nom de, on l'a beaucoup entendu, sous le nom de Color Monkey, le fameux Color Monkey, un gros appareil là, qui tient dans la main, qui permet de faire une mesure de patch coloré quand on calibre une imprimante. Ce produit a été reconduit, donc au début, il était vendu par la marque X-Rite, qui a été racheté et qui a été refondé sous le nom maintenant Calibrite. Le produit est toujours décliné. Il s'appelle maintenant Color Checker Studio, CC Studio. C'est un produit qui coûte dans les 500 euros. C'est un vrai spectrophotomètre qui fonctionne très, très bien depuis plusieurs années. Et la marque concurrente Datacolor a le Spider X Studio. Et selon mes propres essais, il semblerait que, en fait, ça, tout va dépendre des couleurs un peu saturées qu'on va chercher à calibrer. Si on prend des couleurs peu saturé, des couleurs qu'on observerait, qu'on photographierait dans un espace couleur, le fameux standard rouge-vert-bleu, le sRGB, et bien là, vous allez voir que très honnêtement, entre Datacolor et puis Calibrite, on a deux produits, pour moi, vraiment similaires. Et là, on est moins cher chez Datacolor, d'une centaine d'euros. En revanche, dès qu'on commence à vouloir calibrer des couleurs un peu plus saturées, un peu plus spécifiques, clairement, pour moi, il y a un gap grâce au Color Checker Studio.
Grosso modo, les gamuts des coupes imprimantes papier, on va essayer de raisonner d'une manière générale, ils sont plus étendus que le sRGB, plus étendus que l'Adobe 98, ou ils n'ont juste pas tout à fait la même forme.
Alors, ils sont plus étendus que le sRGB, ça c'est certain, enfin, pour certains papiers. En fait, il faut considérer, déjà un petit peu considérer les papiers. Les papiers, on a les papiers photos. Moi, je les classe comme ça, on en a déjà parlé, c'est ma classification, mais que je trouve logique. Les papiers photos, donc brillants, satinés, perlés, tout ce qu'on veut. On a les papiers barytés, qui ont différents petits aplats de surface. On a même des mats maintenant dans les barytés. Et après, on a tous les papiers fine art. Entre un papier photo baryté et un papier fine art, il y a une différence de gamut. Les papiers fine art, en général, qui sont des papiers mats, comme tous les papiers mats, ont un gamut un peu plus restreint que les papiers dits photo ou les barytés photo, on va dire. Donc ça, c'est déjà les différences entre ces papiers. Ça, c'est important de le savoir. Ensuite, entre différents papiers photo, oui, il y aura des petites différences, mais on sait que déjà, la plupart de ces papiers couvrent le sRVB, y compris les mats. Ça se corse et ça se complique un petit peu avec l'Adobe RVB, bien entendu. Aujourd'hui, un papier, quel qu'il soit, même un papier brillant, ultra brillant, moi je me rappelle de Lilford High Gloss qui était un papier, bon c'était un RC, mais absolument sublime, qui claquait, etc., etc., on ne tapait pas la totalité de l'Adobe RVB. J'en connais très très peu aujourd'hui qui peuvent revendiquer de couvrir tout l'Adobe RVB. Mais je vais aller plus loin dans la réflexion. Je dirais que dans 80, allez, c'est peut-être osé de donner un pourcentage que je ne le connais pas vraiment, mais je dirais qu'entre 85, peut-être 10% des images qui sont produites aujourd'hui dans le monde, elles sont dans le sRVB, pour beaucoup. Même si elles sont inscrites dans le Adobe RVB, parce qu'on peut les inscrire dans le Adobe RVB, toutes les couleurs qui sont dans ces photos tiennent, en gros, dans le sRVB. Ce qui explique aussi une chose, c'est que beaucoup de tireuses de labo sont calées sur les sRVB.
Petit point sémantique, Patrick, on a entendu Arnaud parler à nouveau de spectrophotomètre. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre un spectrophotomètre et colorimètre ?
En fait, l'outil vraiment qui est utilisé, des outils dont parlait Arnaud, c'est des spectrocolorimètres. On les appelle comme ça parce qu'ils sont vraiment réellement dédiés à la couleur. Il y en a des chers, des moins chers, des très très chers. Il a donné deux solutions, par exemple, pour les colorimètres, en fait. Hein, les spectrocolorimètres, la solution de Calibrite, qui est effectivement l'ancien Color Monkey d'X-Rite. Et il y a le Spider Checker, effectivement, qui est aussi un spectro. Lui, ce spectro ne peut faire que du papier. Alors que l'ex-Color Monkey, par exemple, de Calibrite, pourra faire le papier, mais pourra aussi faire l'écran.
L'imprimante.
L'écran et l'imprimante. Non. Il pourra faire les deux. Des solutions plus chères, qu'utilisent notamment beaucoup de labos aujourd'hui, sont articulées autour de l'iOne Pro 3 aujourd'hui, dans sa dernière déclinaison. C'est un spectrocolorimètre aussi, mais qui n'est plus dans le giron de Calibrite, qui est resté dans le giron d'X-Rite. Un petit peu comme ça que se sont dissociées les choses. Et on va dire que ce sont des outils aujourd'hui qui sont parfaitement adaptés pour le papier. Le spectrophotomètre, il a un rôle un peu plus large. Il est beaucoup plus coûteux. Et ce n'est pas l'outil qu'on trouve aujourd'hui sur le marché pour cet usage-là.
Donc en fait, si on raisonne de manière un peu plus globale, on peut avoir des problèmes que dans de rares cas où finalement, sur notre fichier, on a des couleurs qui sont à l'extérieur du gamut de reproduction du couple imprimante plus papier. C'est là qu'on peut avoir du coup des aplats, des cassures dans les dégradés. Comment ça se manifeste sur le tirage, ces trucs-là?
Alors en fait, les choses qui vont pouvoir déjà apparaître, effectivement, c'est que selon les papiers, et même au sein d'une gamme de papiers, c'est vrai pour n'importe quelle marque, une gamme par exemple de papier fine art, on va surtout parler des papiers fine art parce que c'est eux, en théorie, qui ont le gamut le moins étendu par rapport au papier photo. C'est justement quand on va pouvoir simuler les rendus de ces papiers à l'écran. On va se dire que, ce papier-là, mes couleurs à moi, il ne me les rend pas vraiment comme je voudrais. C'est tout l'intérêt du softproofing.
Il faut être sûr de sa calibration.
On part du principe que c'est posé dès le départ. Si on n'a pas un écran qui est calibré, c'est même pas la peine d'espérer se dire que, avant même de parler des breuvages écran, je vais comparer mon tirage à quoi. Si mon écran n'est pas calibré, je ne sais pas si le fichier qui sort de mon appareil photo est correct. Donc, on part du principe que ma chaîne graphique, elle est en gestion de couleurs, elle est calibrée, mon écran est calibré.
Tu calibres ton appareil photo, toi?
Non. Alors franchement, en dehors du studio, ça m'arrive. Hein. Ça m'arrive aussi pour certaines séances macro, où là, j'ai toutes les color checkers, j'ai la nano toute petite, j'ai les moyennes. Selon le sujet, ça peut m'intéresser parce que je veux garder une certaine unité sur toute ma série, donc je vais le faire. Mais imaginez un reporter sur le terrain, un reporter de guerre, hein, il ne va jamais aller mettre une color checker ou quoi que ce soit. Non, on a aujourd'hui des appareils franchement qui gèrent plutôt bien tout ça. Les balances des blancs, tous ces trucs-là sont plutôt bien gérés, donc je ne vois pas trop l'intérêt. Par contre, oui, l'écran, c'est majeur. Ça, on l'a déjà dit dans l'émission précédente, sans écran calibré, on travaille en aveugle. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de ce qu'on voit. On voit quelque chose, hein, mais on n'est pas sûr. Et ça implique que derrière, si je veux être sûr de m'assurer que je vais avoir une correspondance et un dialogue, surtout parce qu'un écran calibré a donc un profil, mon imprimante et mon papier ont un profil, ils échangent, ils communiquent entre eux. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment est fait un profil, mais en gros, il y a deux tables dans un profil. Il y a ce qu'on a mesuré, il y a une autre table qui va correspondre avec l'équivalent du profil du papier et ils vont échanger leurs informations et le but est de retranscrire le mieux possible, je dis bien le mieux possible, pas forcément exactement, mais au plus près possible et matcher ce qui est possible entre les deux espaces des papiers. L'intérêt du profil, il est là, quel que soit l'échange. Hein.
Alors, parmi les paramètres qui influent sur la taille de ce gamut, imprimante plus papier, tu soulignes évidemment l'importance fondamentale du papier, mais il n'y a pas que ça. Il y a évidemment aussi la technologie d'impression et peut-être même plus particulièrement le nombre de cartouches d'encre différentes exploitées par les imprimantes. Alors, deux constructeurs proposent des imprimantes photo professionnelles, Canon et Epson, qui, sur ce sujet-là, ont des approches différentes. On vous propose d'écouter le témoignage de Sébastien Corlouer, qui est responsable de département marketing produits et CPS de Canon France, nous expliquer les outils software et hardware que l'on peut retrouver sur l'une de leurs imprimantes photo, la ProMille, pour la restitution des couleurs.
Il faut imaginer que l'œil voit le spectre des couleurs de manière extrêmement étendue, mais nos écrans vont nous restituer qu'un certain nombre de couleurs, certaines ne peuvent pas être restituées par les écrans, et les imprimantes sont encore plus handicapées finalement que les écrans, puisque le champ des possibles va être d'autant plus limité. Donc pour contrecarrer ça et permettre en fait de retrouver une fidélité de couleurs beaucoup plus importante, on va rajouter des cartouches. Et là, sur la Pro 1000, on a rajouté du rouge, du bleu et du cyan photo et du magenta photo avec des nuances plus claires, plus foncées, pour pouvoir en fait permettre de donner le maximum de fidélité en termes de reproduction de couleurs. On va avoir par exemple des rouges beaucoup plus profonds qui vont être un peu moins ternes, pareil pour le bleu, et on va avoir surtout une plage de nuances beaucoup plus importante. C'est-à-dire que le photographe, quand il va imprimer sa photo, ce qu'il a à l'écran et ce qu'il va avoir sur son papier va être extrêmement proche, ce que tu n'auras pas avec des imprimantes classiques. La recherche vraiment et la philosophie qui est derrière ces imprimantes, c'est vraiment d'offrir une fidélité la plus poussée possible par rapport à la photo qu'on a à l'écran. Alors, on met deux choses à disposition des utilisateurs pour leur faciliter la vie. Il y a une première parade qu'on met à disposition depuis, j'ai envie de dire, un peu la nuit des temps, c'est les profils ICC de tous les papiers Canon, mais pas que. On va, nous, à proposer des papiers Canson et Anemul qui sont commercialisés sur nos, aussi chez Canon. On a des partenariats avec eux. Et surtout, on travaille avec les fabricants pour que les fabricants de papier puissent proposer un profil ICC adapté à leur papier. Souvent, ce qu'on recommande aux gens, c'est d'aller directement chez le fabricant de papier s'ils n'ont pas du papier Canon pour télécharger le profil ICC qui va bien, puisque en général, les fabricants ont fait leur profil, ce qui sont plus à même que nous de connaître le papier. La deuxième chose qu'on met à disposition, c'est le logiciel lui-même, Professional Print Layout, qui est en fait un logiciel d'impression intuitif. L'idée, c'est tout le monde n'est pas à même de calibrer son écran ou de calibrer son imprimante pour avoir une chaîne de l'image calibrée d'un bout à l'autre. Donc, nous, ce qu'on propose dans le logiciel, en fait, c'est la possibilité d'imprimer deux planches contact directement sur son papier. Donc, on choisit son papier, on dit voilà, j'ai tel papier, et on fait imprimer une planche contact. Et cette planche contact, elle va proposer différentes itérations en faisant varier le cyan, le magenta et le jaune. Et la même chose en luminosité et en contraste. Donc, on va pouvoir avoir énormément d'itérations différentes avec des pas. On choisit des pas très grands, des pas plus petits, en se disant, voilà, j'aimerais plutôt choisir une image qui va tirer, par exemple, plus vers des tons chauds. Et ensuite, on peut venir affiner plus progressivement. Et il suffit de rentrer ces corrections-là. Et ensuite, on peut tirer l'image en grand et elle sera fidèle à la vignette qu'on a choisie.
Bon, ça paraît logique, évidemment. Plus on a d'encre différente, plus le gamut a des chances d'être étendu. Bon, ça inclut un passage à la pompe à essence plus douloureux.
À bas le prix, le prix d'un plein d'une Pro 1000, c'est dans les 700 euros, je crois.
La base de l'impression, Patrick, c'est le CMJN. Pourtant, Canon rajoute du rouge et du bleu.
Oui, non mais... C'était très intéressant ce qu'a dit Sébastien. Il a bien souligné l'importance aujourd'hui des profils chez les fabricants. Ils savent faire. Donc effectivement, je redis encore une fois, je conseille d'aller récupérer les profils des fabricants. Ensuite, effectivement, on sait qu'aujourd'hui, plus on a de couleurs, plus on va se porter. À la base, l'impression, on va se caler sur l'offset, c'était du cyan, du magenta, du jaune et du noir. On imprimait avec 4 couleurs. À l'époque, déjà, on s'est dit, c'est bien ces 4 couleurs, mais ça ne nous permet pas de tout reproduire. Nos images viennent du RVB. On sait que l'espace du RVB est beaucoup plus large déjà que ce que va reproduire le CMJN. Donc déjà, à l'époque de l'impression offset, alors en pub et en com, hein, pas pour un magazine, sauf pour les couvertures, on était capable de rajouter une 5e couleur, une 6e couleur. Hein. Les tons Pantone n'ont pas été créés pour les chiens. Ça permettait d'étendre déjà à l'impression l'espace colorimétrique par rapport au CMJN. C'est quand même très coûteux. Pour l'impression jet d'encre, c'est la même chose. Hein. Au départ, l'impression jet d'encre, c'était 4 couleurs, cyan, magenta, jaune, noir. Et puis on s'est dit, mais on ne peut pas reproduire tout ce qu'on veut. Donc on a commencé à rajouter
cyan clair,
cyan light, magenta light. Bon, ça change de nom selon le fabricant. Et puis on s'est dit, c'est bien, mais on peut faire mieux. Donc, il y a eu plein de tentatives. Hein. On a rajouté du rouge, du bleu, il y a eu de l'orange, il y a eu du vert, il y a du violet chez Epson. Enfin, il y a énormément de manières d'étendre le gamut reproductible d'une imprimante en rajoutant des couleurs. Là, aujourd'hui, on est au taquet avec 12 couleurs sur une Promille, puisque c'est celle dont parlait Sébastien. Alors, quand on dit 12 couleurs, en vérité, c'est 11, parce que la dixième, c'est le Gloss Optimizer qui permet de réduire les défauts de surface entre ce qui est imprimé et ce qui n'est pas imprimé. Donc, ça fait 11 couleurs, on va dire. Mais alors on pourrait très bien s'imaginer un jour une machine avec 16 couleurs. Mais bon, quand on sait déjà, on l'évoquait tout à l'heure, le prix d'un plein d'une Promille, hein, une Promille, je crois, coûte en prix conseillé, je crois que ça doit être 1 200 € aujourd'hui. 1 300 €.
Ouais. De plein, c'est le prix de la machine.
Le plein, c'est 700 et quelques euros, je crois, de mémoire.
Mmh. Avec le coût du papier, avec les outils qu'on a évoqués.
Associé au papier, qui n'est pas donné non plus quand on monte en gamme. Les outils, si on veut faire ses profils, un écran, bien qu'il. Enfin, ça fait cher. Hein, donc. Effectivement, comme Arthur le soulignait, on étend le gamut d'un couple papier imprimante, plus il y aura de couleurs, plus on pourra l'étendre. Maintenant, attention, il ne faut pas oublier aussi que quand un fabricant de papier ou même un fabricant d'imprimante opte pour des papiers, Canon a des partenariats avec Anemuleux et peut-être Canson, je crois, je ne sais plus. Enfin bon, les fabricants de papier, quand ils conçoivent leur papier, ils ont un petit cahier des charges aussi à leur tête en se disant, il faut que ça corresponde aux machines sur lesquelles on va imprimer. Alors, ça va aussi poser une problématique aux fabricants de papier, c'est que on a deux types d'encre sur le marché aujourd'hui. Je crois que tu voulais en parler. On a des encres à colorant et des encres pigmentaires qui ont chacune leurs caractéristiques et surtout, je dirais, qui correspondent plus ou moins aussi à des catégories de papier où elles vont donner le meilleur rendement d'elles-mêmes. On ne parlera pas des choix technologiques pris par les fabricants d'imprimantes, hein, l'impression thermique chez Canon, l'impression micro-piezo. Ça n'a pas d'incidence. Ça, ouais. Mais le choix des encres a une incidence.
Ouais, mais grosso modo, toutes les imprimantes photo pro utilisent des encres pigmentaires.
Aujourd'hui, oui. De toute façon, quand on regarde la gamme Canon, il y a deux imprimantes, on va dire, pour l'amateur expert, hein, au sens noble du terme, etc. Il y a la Pro 200 qui reste dans la famille Pixma classique, qui est des encres à colorant, et la Pro 300 qui opte les mêmes encres pigmentaires que la Pro 1000. Et chez Epson, aujourd'hui, c'est la P700, P900 qui sont le sommet des imprimantes photo, c'est de l'encre pigmentaire.
Pour en revenir à la gestion des couleurs, proprement parler, au moment de la conversion d'un profil, si on passe du SRVB ou Adobe RVB ou l'inverse, est-ce qu'il n'y a pas un risque de compression du gamut en fait?
Alors, c'est pour ça que je disais dès le départ, il faut travailler en RAW. Mm. L'avantage de travailler en RAW, c'est qu'on s'affranchit déjà à la base, à l'acquisition d'espace colorimétrique. On va travailler notre image dans l'espace du logiciel de dérotisation, j'aime pas ce terme, mais de développement, de fichiers. Il travaille déjà dans un espace qui est très étendu. Il y a Melissa chez Lightroom, DxO a son propre espace aujourd'hui qu'ils ont élargi, etc., etc. Déjà, on travaille dans un espace qui est très très large. Ensuite, déjà pour affiner son fichier, on va travailler en 12 bits ou en 16 bits. Ça permet d'être encore plus fin, etc. C'est une fois qu'on va enregistrer notre fichier que les choses vont réellement... On va définir en fait un espace. Si on reste en RAW pour tous les gens qui n'utilisent que des logiciels de développement RAW, la question ne se pose même pas en fait. C'est j'imprime depuis Lightroom. Aujourd'hui.
Mais si par exemple, entre-temps, tu as généré un JPEG SRVB, si tu veux imprimer ce même fichier en meilleure qualité et exploiter en, on va dire, Adobe RVB, tu vois, en CMJN, est-ce que tu dois repasser par le RAW du coup?
Alors non, de toute façon, à partir du moment où tu as exporté ton fichier, donc j'ai dit tout à l'heure que l'idéal étant d'exporter dans l'espace colorimétrique le plus large.
Ouais.
C'est le mieux disant. Mais si tu as un fichier SRVB, de toute façon, ce fichier qui par nature déjà il tient dans l'Adobe RVB, qu'il soit en Adobe RVB ou en SRVB, les couleurs que tu vois, de toute façon, à l'écran, elles vont être affichées en théorie de manière correcte. Et le but justement de la gestion des couleurs par la communication des profils va être de restituer ton fichier au mieux.
C'est que justement, je pense qu'il faut faire une petite précision entre l'espace couleur du fichier et l'espace de travail. Parce que d'ailleurs, quand on ouvre une image dans Photoshop, première question que Adobe nous pose, Est-ce que vous voulez préférer convertir ou supprimer car l'espace colorimétrique intégré ne correspond pas à l'espace de travail? Bon, alors peut-être on va essayer de définir ce qu'est l'espace de travail. Après, tu nous donneras tes recommandations sur le choix à faire à ce moment-là.
Alors bon, ça, je l'attendais un peu. Alors l'espace de travail, quand on les photographes, alors je ne vais pas dire que ce n'est pas important l'espace de travail dans Photoshop, mais c'est surtout c'est qu'il faut bien dans le logiciel de retouche. Là, on n'est pas dans Camera Raw, on n'est pas dans Lightroom, on n'est pas dans DxO, il n'y a pas d'espace de travail. Il a son espace de travail, on n'y touche pas, on ne lui indique rien. On ne leur indique rien, ces logiciels. Dans Photoshop, on est dans un logiciel qui est à la fois utilisé par des photographes, des illustrateurs, des créatifs, des gens qui créent. Donc, quand on va créer une image, il va bien falloir qu'on la définisse quelque part. Donc, on va définir...
Genre, créer un arbre en plus ou un truc, quoi.
Non. Tu pars d'une feuille blanche.
Oui, c'est ça.
Tu pars pas,
oui,
voilà.
Oui.
Tu pars d'une feuille blanche, au même titre que toi, quand tu as ta carte mémoire dans ton appareil, c'est ta feuille blanche, tu vas faire des photos. Je disais qu'on les faisait en RAW, mais on pourrait dire, bah voilà, bah j'ai défini mon espace, c'est l'Adobe RVB. Bah, dans Photoshop, il faut bien qu'on définisse un espace de travail pour ça. Ce qui va expliquer, qui va répondre à la question que tu as amenée après. Donc, je définis un espace de travail. Moi, par défaut, pour le SRVB, c'est un choix qui m'est propre à moi par rapport à ce que je fais de mes photos et comment elles circulent. J'utilise l'espace RVB ECI parce que c'est un espace colorimétrique qui est plutôt bien défini et conçu pour les exports vers la presse, c'est-à-dire vers le CMJN, c'est-à-dire que je pars d'un grand espace vers un petit espace. Alors, ne me demandez pas comment ça a été conçu par les scientifiques qui ont fait ça, mais l'expérience prouve, et les recommandations des photographeurs, tous recommandent de partir de cet espace pour aller vers le CMJN. Donc, ouais, moi, par défaut...
Le plus peut le moins, enfin...
Voilà, c'est-à-dire... Logique là, quoi. Voilà, il est plutôt bien conçu au niveau de ses tables, en fait. Hein. Tu me disais, il y a un moteur, par exemple, pour... il y a le moteur Adobe, il y a le moteur Apple. Moi, par défaut, qui utilise Photoshop, j'ai gardé le moteur Adobe qui va très, très bien. Ensuite, tu disais, quand on ouvre un fichier dans Photoshop, il me dit, est-ce que je conserve ou je ne conserve pas, etc., etc. Alors ça, déjà... C'est selon ce que tu vas avoir défini dans les réglages de la gestion de la couleur de Photoshop. Tu peux très bien lui dire rien. Il se passe rien. Tu vas même pas avoir une alerte. Il va l'ouvrir. Ensuite, il va te proposer et te dire il y a un profil dans ton image qui ne correspond pas à ton espace de travail. Est-ce que tu veux garder l'espace de l'image ou le mettre dans ton espace de travail? Bien entendu, si moi, j'ai défini mon image là-dedans, il faut que tu la gardes dans cet espace. Donc, tu vas choisir « je garde ». Maintenant, tu peux très bien dire par défaut, moi, ma chaîne, tu es un prestataire de pré-presse, ma chaîne passe par ce truc-là, etc., etc. Je convertis dans mon espace qui est CMJN, par exemple, et je fais mon flux de travail. Voilà,
et ça, pourquoi le faire avec Photoshop ou un logiciel? Tiens, on ne peut pas le faire avec le pilote de l'imprimante?
Alors, le pilote de l'imprimante, lui, ne propose pas de toute façon tout ça. Et alors, c'est pour ça que ça rejoint aussi ce que disait Sébastien tout à l'heure dans sa petite intervention. Canon propose, par exemple, un logiciel qui, effectivement, va aider le photographe à imprimer.
Faire des choix visuels.
Mais c'est des choix. Alors, je vais pas dire que c'est empirique, mais c'est-à-dire que là, on s'affranchit de la gestion de la couleur. C'est-à-dire que là, en gros, c'est comme si on s'adressait à un pilote.
On fait confiance, en fait.
Voilà, il faut faire confiance. On part du principe que si on va adopter ce paramètre-là, c'est répétable à envie et il va toujours me ressortir ça. C'est vrai que pour les gens qui ne veulent pas se poser de questions par rapport à ICC, etc., c'est un chouette outil. Alors, il est, je crois, en version indépendante ou on peut l'insérer sous forme d'un plugin via Photoshop. Mais effectivement, c'est une très, très bonne solution. Mais ça veut dire que... Bah voilà, j'ai choisi ça. Mais je peux choisir ça. Moi, ce qui m'intéresse d'emblée, c'est de me dire... Alors, l'avantage du RAW, c'est qu'aujourd'hui, je me dis, voilà, j'ai fait mon fichier comme ça, j'ai décidé que j'étais fidèle déjà à ce que j'avais vu puisqu'à ce que je veux rendre. L'avantage du RAW, c'est que demain, je veux faire une autre version parce que je suis pas de la même humeur, parce que j'en fais ce que je veux. L'importance d'ICC, c'est que je vais toujours obtenir quelque chose de cohérent dans ma chaîne graphique. La méthode empirique, bah, elle fait que si j'ai changé d'avis, ce que j'ai fait avec mes planches contact, il faut que je le refasse. Mais c'est une très, très bonne solution. Mais ça revient à dire, est-ce que j'utilise ICC ou est-ce que je fais confiance au pilote de mon imprimante chez Canon ou chez Epson? C'est-à-dire qu'en gros, j'ai aussi des possibilités de réglage hein, dans mes logiciels, que je fasse du noir et blanc. Du reste, le mode noir et blanc avancé, des pilotes, c'est celui qui est pratiquement recommandé. Alors, bien entendu qu'on peut faire des profils adaptés,
oui, parce que c'est,
à l'impression
c'est
noir et blanc, mais...
pas plus mal de se familiariser avec les pilotes d'impression quand même, parce qu'à un moment ou un autre, ça sert.
Et en plus, moi j'en parle très très souvent, j'aime pas dire ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin j'aime pas dire ça, c'est façon de parler.
Non, mais faut le reconnaître.
Il faut reconnaître que quand même les développeurs des fabricants d'imprimantes, c'est quand même pas des manchots. Ils ont retroussé un petit peu les manches et déjà ils ont développé un pilote qui correspond parfaitement à leur tandem à eux, imprimante, papier connu de l'imprimante, etc. Ça marche mais super bien. Franchement, moi j'ai fait des comparaisons à l'aveugle, hein, avec moi et d'autres. Hein. On sort la même image avec le profil ICC du papier et on court-circuite ICC, on se remet au bon soin du pilote, on imprime et on met les papiers sur la table et on dit qui est quoi. Je défie quiconque aujourd'hui, je l'ai fait chez les fabricants d'imprimantes, hein, de retrouver qui est qui dans beaucoup de cas. Alors, dans des papiers très spécifiques comme les papiers Fine Art, oui, il y a toujours un petit avantage au profil, on va dire. Mais il y a eu un énorme boulot qui a été fait au niveau de tout ce qu'il y a au niveau du traitement de l'image, hein, dans le pilote. Et il n'est pas idiot pour beaucoup de se dire bah, ça marche bien.
Mmh. Alors évidemment, quand on veut mettre les mains dans le moteur de la gestion des couleurs au moment de l'impression, donc on l'a bien compris, on a une image qui a un certain nombre de couleurs qui sont affichées sur un écran qui a un certain profil ICC et qui vont devoir être restituées sur un couple imprimante plus papier qui lui-même a son propre profil ICC. Et donc la gestion de la couleur, c'est le moteur qui va permettre du coup de venir positionner les couleurs d'un premier espace dans ce deuxième espace. Il y en a plusieurs, des moteurs, on l'a évoqué, l'ACE d'Adobe, soit on laisse le driver de l'imprimante gérer, ou même les systèmes d'exploitation ont aussi leur propre moteur. Et quand on met vraiment les mains dans le cambouis, ben, y a des paramètres sur lesquels on peut influer à ce moment-là, qui vont en gros essayer de donner la manière de fonctionner pour réussir à faire rentrer des couleurs qui sont hors gamut au niveau de l'impression sur une feuille de papier. Il y en a beaucoup et je vous propose qu'on écoute Volker Gilbert qui est journaliste spécialisé, lui aussi
bien, ouais.
Grand spécialiste de la gestion des couleurs, nous expliquer la différence entre colorimétrie relative, absolue, perception, etc. On l'écoute.
Alors, pour comprendre en fait le rôle de ces modes, il faut simplement savoir que finalement en fait l'espace source, donc c'est-à-dire l'espace couleur dans lequel la photo se trouve, est généralement beaucoup plus large que l'espace cible, c'est-à-dire l'espace en fait dans lequel on va imprimer l'image. Donc il faut effectivement traduire les couleurs en fait d'un espace plus large vers un espace plus petit. Et là, il y a effectivement plusieurs intentions, il y a plusieurs approches en fait pour se faire. Et de manière générale, bon, il y a quatre modes différents qu'on pourra choisir en fait justement pour traduire ces couleurs-là. Et en fait, il y a deux qui sont dédiés plutôt à la photographie. Il y en a deux autres qui sont dédiés plutôt au graphisme ou alors à l'impression ou alors à la publicité, etc. Donc, pour commencer, en fait, on a le mode perceptif ou perception, en fait, selon le logiciel, qui fait en sorte, en fait, que toutes les couleurs qu'on a, en fait, dans l'espace source sont désaturées et ainsi adaptées pour rentrer dans l'espace cible. Il y a également le mode colorimétrie relative, qui fait en sorte que toutes les couleurs, en fait, commune à ces deux espaces ne change pas, mais les couleurs qui se trouvent à l'extérieur de l'espace cible vont être ramenées en fait jusqu'au bord de cet espace-là. Donc, moi, je sélectionne en fait l'un ou l'autre de ces deux modes-là, colorimétrie relative ou alors perception, selon l'image en fait que j'ai, et je vais toujours vérifier dans Photoshop en fait lequel des deux privilégier pour avoir en fait la moindre paire possible.
Donc ce raisonnement s'applique au moment de l'impression, mais aussi au moment de l'épreuvage écran. C'est exactement la même, la même mécanique. Si on se rend compte, Patrick a l'impression ou à l'épreuvage écran que y a des problèmes et que finalement des couleurs orgamut sont mal restituées sur son papier ou à l'épreuvage écran, qu'est-ce qu'on peut faire en termes de manipulation de fichiers pour essayer de faire rentrer tout le monde à l'intérieur? Ça se joue principalement sur la saturation, si j'ai bien compris, des couleurs.
Alors en fait, Volker a plutôt bien résumé la situation. Effectivement, pour la photographie, on a vu qu'il y a quatre modes de rendu, mais en photographie, on se sert principalement du mode perceptif, associé généralement à la compensation du point noir, du reste, et le mode de colorimétrie relative. On a vu que c'est la manière de faire rentrer le gamut dans l'espace cible vers lequel on va. Pour répondre à ta question, en fait, effectivement, l'épreuvage va déjà, ou le soft-proofing, va avoir déjà un rôle important parce qu'il va nous permettre déjà d'anticiper ce rendu sur le papier. Là se pose une question pour le photographe, que j'ai aussi évoqué tout à l'heure, c'est est-ce que je corrige un petit peu, est-ce que je peux corriger dans les limites de ce que va me proposer le papier? Parce qu'évidemment, alors on travaille toujours sur une copie du fichier ou depuis le RAW, mais là il parle de Photoshop, donc dans Photoshop, copie de fichier, et je vois jusqu'où je peux corriger pour essayer d'approcher au plus près le rendu que j'avais avant mon soft-proofing. Et là, je suis content, ok, j'imprime. Ensuite, il y a un autre cas de figure, et celui-là, il faut l'envisager, et il est même très très important à garder à l'esprit, c'est, moi, il m'est arrivé plein de fois, hein. Comment on trouve un papier? Moi, des papiers, j'en découvre dans les petits swatchbooks fournis par les fabricants. Je vais voir des expos, je vois des papiers. Des fois, on s'est renseigné, on sait qui a tiré, quel labo, quel papier. Il dit, ah putain, il est beau ce papier, je le veux pour mes images. Et puis, en fait, je me rends compte que c'est un papier qui me plaisait bien. Et puis, en fait, il ne va pas du tout avec mes images. Moi, j'ai des couleurs qui claquent, j'ai des couleurs pétantes. Et tu vas aussi comprendre pourquoi je dis ça. C'est que je me dis, mais ce papier, j'oublie. Parce que de toute façon, j'aurais beau essayer quoi que ce soit, il ne va pas, il ne rendra jamais mes images. Je vais y perdre. Donc déjà, ça, c'est un choix important. Après, Volker a souligné qu'on avait quatre intentions de rendu quand il y a des conversions qui se font, donc perceptif et relatif. Il y en a un que moi, j'utilise parce que vous connaissez tous les deux un petit peu mes images. Moi, j'ai beaucoup de couleurs, beaucoup d'aplats, en fait, si tu veux. Et ce mode que moi, je décommande pour la photo, c'est le mode colorimétrie absolue. Volker l'évoquait tout à l'heure, qui est bien adapté aux arts graphiques, pour les aplats, etc. Moi, j'ai beaucoup d'aplats de couleurs. J'ai beaucoup moins de détails dans mon travail sur les coques que je ne l'aurais sur mes photos de reportage, par exemple. Là, c'est un des modes que j'utilise presque le plus couramment pour mes impressions. Donc, c'est bien spécifique. Il faut bien mesurer, il faut bien anticiper et parfois même faire le choix de se dire, ce papier, non.
Dans l'anticipation, il y a le repérage aussi. Il y a des outils non, qui permettent de repérer les couleurs qu'on ne pourra pas reproduire alors, par les différents périphériques. Je pense à commande couleurs non imprimables. Non,
oui, alors,
est-ce qu'on peut les utiliser? Est-ce que c'est utile?
Alors, dans Photoshop, par exemple, quand on fait imprimer et qu'on a choisi le profil papier qu'on veut utiliser, on a sous la fenêtre de visualisation de nos photos, effectivement, une petite coche. C'est l'épreuvage, je sais plus comment il l'appelle. Enfin, on le coche et c'est couleur non imprimable. Voilà, je le cherchais. Qu'on peut aussi afficher avant même d'imprimer, on peut afficher couleur non imprimable. Alors, je vais pas dire que je décommande l'utilisation de cet outil. Il peut avoir une pertinence, mais franchement, entre ce qui dit qu'il n'est pas imprimable, si, il imprime. Donc, il serait plutôt judicieux de pas appeler ça déjà couleur non imprimable, mais couleur pas forcément bien reproductible, mais il va les imprimer.
Couleur, on va y avoir des problèmes.
Non, mais voilà.
Non, mais non fidèle, en fait.
C'est un indicateur qui va dire, attention, là, en théorie, mon papier, déjà, on sait qu'il va pas reproduire ce que j'avais vu. C'est déjà, avant même du soft-proofing, un repère. Mais des fois, moi, je sais que je me disais, merde, j'ai quand même beaucoup de couleurs, qu'est-ce qui va me sortir? J'étais très content du résultat imprimé. Donc, il faut le garder, ça, il faut le garder effectivement à l'esprit. Cette fonction-là, elle va permettre éventuellement de se poser la question et puis se dire, je vais quand même faire un essai, parce que des fois, je dis que l'épreuvage évite de faire des essais, mais des fois, il faut quand même le faire, l'essai.
Ouais, en fait, il faut le faire.
Vaut mieux. Pas forcément. Et quand on n'a pas trop d'alerte comme ça, on se dit, c'est bon, ça passe, il n'y a pas de problème. Maintenant, on peut se dire, finalement, le papier, je ne l'aime pas. Mais ça, c'est autre chose. Mais on a des petits indicateurs. L'épreuvage permet d'anticiper. Et couleur non imprimable permet quand même de se dire, attention, là, il peut y avoir un souci. Donc, il ne faut pas non plus le négliger.
OK. Arrive donc désormais le moment fatidique de l'impression de scénario. S'offrent alors aux photographes, soit ils sont équipés de leur propre matériel, ils utilisent soit les profils ICC fournis par le constructeur de la machine ou le constructeur du papier ou les profils ICC qu'ils ont générés eux-mêmes, soit ils font appel à un laboratoire, donc c'est le métier de faire ça, un laboratoire spécialisé comme par exemple l'atelier photo d'art qui est situé au 21 rue du Faubourg Saint-Antoine dans le 11e arrondissement de Paris. On vous propose d'écouter le témoignage de Hervé Pain, tireur numérique d'art, qui nous explique comment est-ce que lui, il travaille avec les photographes sur toutes ces questions de la gestion des couleurs.
Bien, en général, lorsque les photographes nous apportent, nous téléphonent déjà pour nous demander un petit peu quelles sont les contraintes colorimétriques, on leur dit de ne pas trop toucher à leur fichier, de ne pas trop manipuler le fichier. Donc, on travaille beaucoup en collaboration avec les photographes. Donc, en général, il est à côté de moi, on regarde le fichier, on s'appuie sur un écran vraiment bien calibré, donc ça c'est le premier conseil. Si les photographes veulent préparer leur fichier en amont, l'important c'est d'avoir déjà un bon écran. Je préfère toujours moi voir le fichier avec le photographe sur un écran à graphique et à ce moment-là on a vraiment des couleurs réelles, on peut vérifier que les couleurs sont bien imprimables et puis en général moi je fais une sortie. Donc, le photographe contrôle l'image à la sortie et s'appuie beaucoup sur l'image finale au papier, sur le papier. Donc là, après, on peut faire les ajustements à l'écran, qui est d'ailleurs très proche de la sortie, mais ça permet de faire les derniers ajustements. Pour la préparation, je dirais que l'important, c'est qu'il travaille s'il travaille dans Photoshop, c'est de bien configurer la partie couleur. Il y a un menu qui s'appelle le menu édition. Quand on va dans le menu édition couleur, espace de travail, souvent, quand je regarde les portables des photographes, il est soit sur sRGB, soit sur carrément le profil écran. Donc l'espace de travail ne doit jamais être l'espace du profil de l'écran. En fait. Ça doit être l'espace Adobe RGB, en général, qui est très bien pour la plupart des photos. Alors, en effet, on peut fournir les profils ICC, mais en pratique, on a très peu de demandes. En fait. Les photographes me confient vraiment les fichiers, et après à moi de faire les bons ajustements pour que sur le papier on ait le rendu final. En général, j'ai très peu de photographes qui simulent à l'écran le rendu d'un profil papier en fait. On a très peu de tirages à refaire. Si on refait des tirages, c'est pas parce qu'il y a une énorme différence, c'est juste parce qu'il y a des fines corrections à faire ou des petits ajustements liés à la perception des couleurs qui sont un peu différentes à l'écran et sur le papier. Même si on est très bien calibré, on peut avoir, même en faisant un éprouvage écran, quand même une différence de perception qui fait que bon, peut-être qu'on va faire un deuxième tirage pour compenser le contraste, la luminosité peut-être un peu plus forte, essayer de saturer peut-être une ou deux couleurs qui ont perdu un petit peu sur le papier, mais c'est vraiment très subtil en fait.
Bon, on se rend compte que finalement, l'idéal, c'est d'aller au comptoir, d'aller discuter avec un être humain et puis de faire confiance aux professionnels dont c'est le métier sur un écran art graphique, il le reprécise une fois de plus.
Alors oui, bah évidemment, là, on s'adresse à un labo, je connais bien, en plus c'est vraiment des bons. Un photographe qui connaît bien le process, qui connaît bien l'impression, qui connaît ses papiers, etc., qui connaît le labo avec lequel il bosse, qui connaît les papiers du labo, l'éprouvage écran, c'est un bon indicateur, il peut un peu travailler son fichier. Je dis qu'il peut faire confiance à toute cette chaîne-là. Maintenant, c'est vrai que, et moi, c'est aussi ce que je recommande à beaucoup de gens qui, justement, ne veulent pas trop mettre les mains dans le cambouis. Bon, il y a une chose, au moins, on est tous unanimes, c'est l'écran. On a tous compris que l'écran était fondamental, que je tire ou pas. De toute façon, l'écran, c'est le juge de paix, c'est lui qui. Un labo pro comme Photodart, et puis avec des tireurs comme Hervé et d'autres, hein, c'est vrai chez Picto, c'est vrai chez tous les labos professionnels, l'avantage qu'on a à passer par ces gens-là, c'est que on a affaire à des spécialistes, des gens qui connaissent, qui maîtrisent la gestion des couleurs, ils connaissent leur papier, ils connaissent leur machine, et quand vous arrivez chez ces gens-là, vous arrivez avec vos fichiers, et la personne va pouvoir vous dire, en fonction de l'image que vous avez, déjà, il va pouvoir vous orienter sur les papiers. Vous ne connaissez pas forcément tous les papiers. Eux connaissent plutôt bien. Ils connaissent leur papier déjà, eux. Mais vous pouvez venir avec une idée spécifique. Hein. Vous avez vu un papier qui vous plaît. Est-ce que vous pourriez me tirer sur ce papier-là? En général, bon, ils les connaissent un peu. Ils peuvent dire oui, pourquoi pas, ils vont l'acheter. Et après, ils prennent en charge justement le process. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir vous reposer sur quelqu'un qui connaît bien les choses, qui fera un, deux, ça peut même être trois tirages, hein, en compagnie, enfin avec vous.
Et dans vous. Bonnes conditions d'éclairage, parce que ça c'est important. Alors voilà, pour évaluer là, les couleurs, il faut peut-être exactement. Que tu nous en dises un mot quand même.
Alors ça, on en parlera effectivement, et je l'ai souligné un petit peu au départ, les conditions d'observation sont fondamentales. Eux évidemment, bah, c'est des professionnels, ils ont leur machine, tout est étalonné, ils ont des écrans art graphique. Alors art graphique parce que ce sont des ISO, des choses comme ça qui coûtent un peu cher, mais si on prend aujourd'hui un BenQ, si on prend des Asus de la gamme ProArt par exemple.
Bien calibré.
Bien calibré, moi je dirais que ce sont aussi des écrans, on va dire, art graphique.
Bien sûr.
Ce qui importe, c'est qu'il soit capable de restituer un gamut étendu et une fidélité des couleurs la meilleure qui soit. Alors évidemment, hein, plus on tape haut en gamme, mieux on a l'assurance de ça. Ensuite, effectivement, les conditions d'observation des tirages chez ces gens-là, chez Photodart notamment, ils ont une cabine d'éclairage hein, qui est normalisée et ça permet d'être sûr que justement, par rapport à la cohésion de ce qu'on a à l'affichage écran et la restitution et visualisation du tirage, on soit dans les mêmes conditions d'observation. Ça, c'est fondamental. Alors, on sait quand même qu'entre un écran qui est émissif et un papier qui, lui, c'est complètement différent, un écran et du papier, on sait qu'on a des petits écarts. En plus, les écrans dalle brillante ou dalle mate, etc., etc., on a toujours des petits écarts. Ce qui importe, déjà, c'est ces conditions-là. C'est qu'on soit dans le même... Dans le, par exemple, au niveau de la température de couleur. En art graphique, on est en D50. Là, on n'est pas en art graphique, on est en photo. En général, c'est en D65. Voilà, en gros. Hein. Il faut que ces conditions soient réunies. Là, on peut y aller sans problème, sans se poser de questions. J'ai mon fichier, j'ai fait ma petite post-prod, ça va bien. Hervé le soulignait tout à l'heure. Venez avec votre fichier, vous touchez plus à rien. Nous, on s'occupe du reste. On fera les petits ajustements qu'ils vont mis à faire. Ils connaissent leur machine, mmh. Ils connaissent les papiers, ils savent où il faudra ou pas. Hein. Un premier ou un deuxième tirage test va préfigurer le ou la série de tirage définitif.
Est-ce que tu crois que les profils maison que ces laboratoires font sur leur machine, avec les papiers qu'ils ont sélectionnés, sont plus précis, meilleurs que les profils qui sont fournis directement par les constructeurs ?
Bah, je dirais que quelqu'un qui connaît bien la gestion de la couleur et l'utilisation d'un spectro et de ce qu'on va pouvoir en faire, il va pouvoir éventuellement ajuster un petit peu ses courbes, un petit peu... essayer d'optimiser au mieux sa gamme de gris. Mais franchement, aujourd'hui, quand on voit quand même la qualité des profils fournis par les fabricants, c'est plutôt bien. Mais eux ont intérêt à le faire, dans la mesure où ils ont des papiers plutôt variés. Ils veulent être sûrs que... En fait, ils ont la maîtrise complète de leur chaîne.
Ben,
dans
ce
sens-là, ça va rassurer le photographe qui vient pour tirer. Il se dit, bon, ben, ouais, ils savent de quoi ils parlent, ils savent faire, ils maîtrisent l'intégralité de leur chaîne et il y a un réel intérêt de le
faire. Parce qu'il y a plein d'autres paramètres qui peuvent influer sur le gamut et le profil ICC d'un couple imprimant plus papier dont on n'a pas parlé. Combien de temps après le séchage de l'encre on fait les mesures? Est-ce que des lots d'encre différents rendent exactement la même chose? Est-ce que des lots de papier différents rendent exactement la même chose? Bon, évidemment, je pense qu'un laboratoire spécialisé comme ça fait ses profils de manière régulière.
Exactement.
Pour bah, voilà, garantir, essayer de limiter tant que possible les moindres aléas ou variations possibles. Quoi.
Déjà, quand on parle de calibration d'écran, on sait qu'un écran, il vit un petit peu. Donc, on le recalibre régulièrement. Déjà, ça, il faut qu'on s'assure.
Minimum
de ça.
Quoi un mois, une fois par mois?
Bah, les gens qui travaillent l'image, je dirais qu'ils les calibrent, je ne vais pas dire tous les jours, mais ils les calibrent pratiquement toutes les semaines. Quand on tape dans le très haut de gamme des moniteurs, la question ne se pose même pas, c'est calibré presque tous les jours. Hein, ça se fait tout seul. C'est-à-dire que chez ISO, par exemple, un moniteur ISO, on lui dit telle heure, tel jour. En général, on fait ça même la nuit. Ça se fait tout seul. Même quand l'ordinateur est éteint, le petit process se lance. Le petit colorimètre sort, il fait son petit check, machin, il fait les réajustements qu'il faut et youpi. Ensuite, quand on fait soi-même sa calibration avec un colorimètre indépendant, les logiciels ont des petites alertes. On dit toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois. Il faut le faire régulièrement. Les labos, évidemment, eux, contrôlent qualité. En même temps, beaucoup essayent de répondre à des normes ISO, machin, etc. Les normes ISO imposent que, je calibre régulièrement ci, je fais ci, je fais ça. Et pour m'assurer, justement, que mes lots de papier peuvent bouger, je calibre régulièrement mes papiers, je refais mes profils pour ce lot-là, etc., etc. Okay. Ensuite, tu parlais de l'incidence éventuellement des encres en fonction des lots d'encre. Donc là... Je me dis quand même que les fabricants, quand ils conçoivent de l'encre, que j'achète un bidon aujourd'hui ou que j'achète un bidon dans 6 mois ou dans 1 an, c'est la même formulation, ça doit être exactement pareil. C'est leur intérêt, parce que ça veut dire que si ce n'est pas le cas, Tous les profils que eux fournissent, mais tous les profils aussi qu'on fait à des fabricants, s'il y a des variables en fonction des lots d'encre, où est l'utilité des profils ICC?
Ah, c'est peut-être des petites variables qui montent et qui descendent, mais reviennent.
Ce qui est important à souligner, c'est que justement, pourquoi les labos, notamment, surtout les labos, font régulièrement des profils papier, c'est imaginons que, on sait jamais, pour X raisons, un fabricant d'imprimante change la formulation d'une de ses encres, pas forcément toutes, quelle que soit la couleur du reste, eux, au moins, ils sont sûrs que quand ils vont avoir refait leur profil, il n'y aura pas un poil d'écart par rapport à ce qu'ils auront observé, eux, à l'établissement du profil. Voilà.
Ok. Bon, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Patrick, pour toutes ces explications. J'espère sincèrement qu'après ces deux émissions, la thématique de la gestion des couleurs est plus claire dans la tête de nos auditeurs, photographes et vidéastes. On passe à la suite et on attaque le débrief. Nous sommes toujours avec le journaliste et photographe Patrick Lévesque pour notre grande émission Masterclass dédiée à la couleur. C'est le moment du débrief qui vous est présenté cette semaine par IPLN.fr, le spécialiste photo et vidéo. Patrick, si on devait essayer de résumer et de synthétiser en quelques minutes les notions importantes à retenir de notre grande discussion. Première question, pourquoi la gestion des couleurs est particulièrement importante à l'impression?
Elle est fondamentale, je dirais, parce qu'elle permet de pouvoir anticiper et prévoir, sous réserve d'un écran calibré, donc, ce que va donner notre image une fois imprimée sur un papier. Ça nous laisse le champ de décider si j'adopte direct l'impression sur mon papier, si je fais quelques modifications ou si je choisis de ne pas du tout imprimer parce que le papier ne va pas.
Est-ce que tu peux nous définir ce qu'est un gamut? Et ensuite, un profil ICC.
Ah, c'est deux choses différentes. On a expliqué qu'un gamut, en fait, c'est un petit peu, pour le résumer, c'est l'ensemble des couleurs que va être capable de restituer un écran. Ça pourrait être vrai pour un scanner.
C'est propre à chaque périphérique.
C'est-à-dire que même deux écrans de la même marque et de la même référence vont des fois avoir un gamut un tout petit poil différent. Pour le papier, c'est vrai, c'est aussi la capacité qu'il va avoir à reproduire X couleurs en fonction de l'imprimante et des encres avec lesquelles il va être utilisé.
Et le profil ICC.
Alors le profil ICC, en fait, c'est ce qui va caractériser en fait justement ce gamut et les couleurs qu'il est capable de restituer, la fidélité, etc. Et ce profil, c'est ce qui va permettre à l'ensemble des éléments de la chaîne graphique de communiquer entre eux et d'échanger les informations pour avoir le résultat.
C'est le papier d'identité du périphérique en quelque
sorte.
Oui,
c'est un petit peu, on va dire, une carte d'identité avec un petit traducteur dedans qui vont permettre de communiquer ensemble.
Comment est-ce qu'on choisit son espace de travail pour la post-production?
Je crois que ça a été dit tout à l'heure, je ne sais pas si c'est par Volker ou Ronan, Sébastien Corloire. À la base, quand on est photographe, on choisit pas spécialement son espace puisqu'il est défini par les choix qu'on aura fait dans son appareil photo. Si on est en RAW, on n'a pas d'espace colorimétrique, on va s'en remettre déjà à ce que propose déjà le RAW du fichier et après au bon soin des logiciels de traitement de fichiers RAW. La notion d'espace colorimétrique, enfin d'espace couleur, en fait d'espace de travail dans un logiciel, c'est simplement parce que quand on va partir de rien, il faut bien qu'on définisse dans quoi on va travailler. Donc on peut définir effectivement que Adobe RVB est un espace très très large et on va travailler dans un espace très très large pour avoir le maximum de couleurs à notre disposition. C'est-à-dire que si je choisis de travailler en SRVB, j'ai accès, on va dire, à moins de couleurs que ce que je l'aurais dans Adobe RVB. On pourrait choisir Profoto, on pourrait choisir d'autres, mais voilà. En général, Adobe RVB, c'est le mieux disant et un des plus utilisés.
Comment s'assurer que what you see is what you get?
C'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en gros, je vois mon image à l'écran, calibrée, donc mon image me plaît, mais je sais que, par expérience, et tout le monde qui connaît la couleur pourra le dire, je suis certain que ce que je vois sur mon écran, c'est pas ce que j'aurais forcément sur mon papier. Le rôle de la gestion de la couleur, c'est de s'assurer justement que la couleur migre le mieux possible d'un de mes éléments à mon autre élément. Mais ce qui est vrai entre ce que je vois sur mon écran avec l'impression sur un papier brillant, sur un papier mat ou sur un papier fine art. Ce qui m'intéresse justement, c'est d'avoir une cohérence dans ma colorimétrie, mais je sais que j'aurai forcément quelques petits écarts.
C'est là qu'intervient l'épreuvage écran.
L'épreuvage écran va permettre d'anticiper et de prévoir justement ça.
Pourquoi certaines couleurs sont non imprimables ?
Bah parce que aujourd'hui, si on prend justement les très grands gamuts, de toute façon même, justement, c'est pour ça aussi que... Alors, travailler avec un grand gamut permet de prévoir l'avenir, on va dire, quelque part. C'est-à-dire que j'ai des couleurs qui sont là.
C'est une sacrée phrase, là.
Non, mais...
mais c'est, t'as bien résumé.
Je le dis vraiment comme ça, parce que ça veut dire que ces couleurs, je sais qu'elles existent. Elles sont là, je les ai localisées, on les voit. Mais je ne les verrai pas sur mon écran, parce qu'il n'est pas capable de le restituer. Donc, encore moins sur le papier, parce que lui, il ne pourra pas non plus les restituer. Mais un jour, mon écran sera peut-être bien capable de me montrer ces couleurs-là, et peut-être qu'un jour, j'aurai une 20 couleurs, et l'encre coûtera beaucoup moins cher, et elle sera aussi capable, mes papiers seront aussi capables de restituer plus de couleurs. Donc voilà, il faut se dire que plus on affiche des couleurs dans des gamuts étendus, il y en a certaines qu'on ne pourra pas forcément imprimer.
Aujourd'hui, c'est quoi les paramètres qui influent sur le nombre de couleurs reproductibles par un couple imprimante papier?
Tu te doutes bien qu'un papier, s'il est imprimé sur une machine à 4 couleurs, il va reproduire ce qui est capable de reproduire ces 4 couleurs sur ce papier, aussi bon qu'il soit. Si tu lui rajoutes 2 couleurs supplémentaires, un cyan light et un magenta light, on augmente le potentiel et le champ des possibles. Donc, tac, il va pouvoir permettre d'en reproduire un petit peu plus. Il va pouvoir affiner un petit peu ses dégradés, etc., etc. Plus on va avoir de couleurs, plus on va étendre, en fait, la capacité du papier au maximum de ce qu'il pourra reproduire.
Dans le cas où tu vas confier tes fichiers à un labo spécialisé, comment tu fais, comment tu procèdes ?
Je dirais un petit peu comme je ferais si j'imprimais avec mon imprimante. La plupart des labos, alors peut-être pas chez Photodart, je ne sais pas comment ils fonctionnent parce qu'il expliquait qu'on ne lui demande pas souvent, mais si on prend Pict Online, si on prend Whitewall, qui sont des labos que ces experts connaissent plutôt bien, tous les papiers sur lesquels on peut tirer, le laboratoire propose des profils. Alors évidemment, ce n'est pas pour les utiliser pour imprimer, puisque nous, on n'imprime pas, mais ça va nous servir justement pour l'épreuvage. C'est-à-dire que, alors là, on va sortir du cadre carrément de l'impression que j'ai donc, mais je veux imprimer chez Whitewall ou chez Picto sur un Fujiflex, ce qui est un super beau papier Fuji, un papier hyper brillant, hyper claquant, etc. On a à dispo le profil et ça va nous permettre, toujours dans mon logiciel de Photoshop ou Lightroom, je vais pouvoir anticiper et voir ce que ça rend imprimé sur ce papier. Voilà l'intérêt de ces profils-là.
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le procédé qu'il faut mettre en place quand on veut réaliser soi-même ses propres profils ICC ?
De toute façon, là, il n'y a pas 36 manières de procéder. Il va falloir procéder à l'acquisition d'un outil qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est donc un spectrocolorimètre, associé à un logiciel. Et là, on procède de la même façon en fait, qu'on le ferait avec un écran. C'est-à-dire qu'au lieu de mesurer des patchs sur l'écran, on va mesurer des patchs qu'on va avoir imprimés. Donc, on va déterminer le nombre de patchs. Ça se détermine dans le logiciel. On va les mesurer avec le spectro. Et une fois qu'on va avoir fini ce processus, comme avec un écran, c'est le logiciel qui se charge de calculer les écarts. Il va même nous donner plein d'indicateurs pour nous montrer ce que ça donnait avant, après, etc. Et là, pareil, le profil va s'installer au bon endroit via le logiciel. Et le profil, après, on l'utilisera dans notre logiciel pour imprimer ou pour épreuver à l'écran.
Et pour terminer, Patrick, au moment de l'impression, quand on met les mains dans le moteur de la gestion de la couleur. Justement, quel type de moteur on choisit pour gérer toutes ces problématiques-là? Et surtout, quel mode de rendu il faut privilégier quand on traite de la photo?
Bon, ça déjà, je dirais que Volker a partiellement, même plutôt bien répondu à la question tout à l'heure. Mais alors déjà, le choix du moteur dans le logiciel. Alors dans les logiciels de gestion de fichiers RAW, il n'y a pas. Ça, c'est le logiciel qui s'autogère. C'est plutôt dans Photoshop, notamment, où on va avoir accès à différents moteurs, donc Adobe, Apple. On aurait pu en avoir d'autres si on utilisait d'autres. Il y en a eu chez les logiciels qui servaient pour le pré-press, qui n'existent plus maintenant. Moi, je conseille d'utiliser Adobe. Il est très, très bien. Il marche très, très bien avec Photoshop.
Ace.
Ouais. Et ça marche très, très bien. Ensuite, au moment de l'impression, donc Volcker a expliqué qu'il y avait plusieurs intentions de rendu. On sait que pour la photo, les plus conseillés, c'est ceux qui sont utilisés par 99% des photographes, c'est le mode perceptif et le mode colorimétrie relative. Alors évidemment, dit comme ça, ça paraît simple. Il faut effectivement essayer de voir, d'anticiper, visualiser, faire un test d'impression. Il vaut mieux faire un test d'impression pour se rendre compte des choses que faire plein de tirages et de se dire que c'est pas bon et gaspiller du papier et de l'encre. Mais déjà, on peut tester un petit peu. Après, il y a des particularismes. Moi, je prends mon cas, j'expliquais tout à l'heure. Moi, j'ai un travail où il y a énormément de couleurs et en fait, il y a beaucoup d'aplats finalement dans mes images. Et le mode colorimétrie absolue qui est plutôt commandé pour les arts graphiques, donc pour tout ce qui est un petit peu le packaging ou des choses comme ça, où il y a beaucoup d'aplats de couleurs. Moi, il est plutôt bien pour beaucoup de mes images. Donc, je l'utilise aussi, mais en toute connaissance de cause. Et j'ai fait des essais avant. Voilà, ça me permet de ne pas gaspiller, quoi. Mais en photo, en tout cas, en général, c'est perceptif et colorimétrie relative.
Merci Patrick pour toutes ces explications. Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Patrick, je te le rappelle, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne ?
Ah oui, 30 secondes.
Alors c'est parti. Première question qui nous vient de Célie95. Est-ce que l'on doit obligatoirement convertir les images en CMJN avant impression ?
Alors évidemment, absolument pas, sauf si c'est destiné à un travail de pré-presse et est imprimé dans un magazine ou dans un journal. On conserve impérativement l'espace RVB dans lequel on a inscrit l'image.
C'est le RIP hein, qui s'occupe de faire cette conversion. Ça se voit pas pour nous, mais c'est lui qui le fait.
Non, dans Photoshop, c'est le moteur.
C'est le moteur qui va gérer.
Ouais, par exemple, si on a deux, ça pourrait être le moteur d'Apple si c'était Apple, mais oui, c'est ça.
Parfait. Donc non, pas de conversion CMJN.
Surtout pas.
Deuxième question qui nous vient de Florent.photographie. Comment créer ses profils ICC pour utiliser un papier qui n'en propose pas ?
Ben on a répondu un petit peu tout à l'heure. Là, pas de choix. Il faut investir sur un Spectro, le logiciel qui va avec, et faire soi-même son profil. Là, on est sûr qu'on a vraiment un profil personnalisé avec son papier, son imprimante et ses encres. Il n'y a pas d'autre solution.
Bah, tu disais que certaines personnes pouvaient imprimer et envoyer
les chartes. Je fais chez moi. Donc, il y a des labos, des fabricants de papier qui proposent vous imprimez votre charte, vous me l'envoyez, je vous fais le profil. Ou il y a des prestataires comme Christophe Metteri qui, lui aussi, est capable de vous faire ça.
Troisième question qui nous vient de Renesis. Est-ce que je dois calibrer mon écran de PC portable lorsque je me déplace pour traiter mes photos, par exemple, à l'hôtel ou en voyage ?
C'est bon pour les tablettes aussi. Hein,
ouais, non, alors de toute façon, les tablettes, on ne peut pas les calibrer.
Ah bah voilà.
Déjà d'emblée, je le dis tout de suite. Non, mais effectivement, bon, on peut calibrer un portable. Mais bon, un écran de portable, c'est bien pour faire les puces, pour faire les niveaux, des choses comme ça. Mais dès qu'on veut vraiment attaquer la colorimétrie, même si aujourd'hui, effectivement, les espaces des portables s'étendent de plus en plus, je recommande de faire sur un écran quand même dédié. On aura une meilleure qualité. Mais on peut calibrer un écran de portable.
Et ça a du sens, si on change d'environnement, de se dire « je refais une calibration ». Je pense que c'était ça, le fond de sa question.
Non.
Ok. Quatrième question qui nous vient d'une dénommée Clarita. Pourquoi se casser la tête avec la gestion des couleurs alors que franchement, en tout automatique, ça fonctionne plutôt très bien ?
Alors franchement, en tout automatique...
Ça devrait être la première question qu'on aurait dû poser.
C'est vrai. Non, mais en tout automatique...
Le pilote auto, souvent, ça fonctionne.
Non, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui fonctionnent plutôt bien en tout automatique, mais tout dépend dans quel contexte on va s'inscrire. Quelqu'un qui vend des tirages 5 000 € ou 10 000 euros ou 30 000 euros, il veut s'assurer que tout est bien nickel et répétable à envie. Donc, il ne confiera pas à l'automatisme. Maintenant, pour beaucoup d'experts, même des pros, effectivement, il y a des automatismes qui marchent plutôt bien. Ça ne dispensera jamais de la calibration d'un écran.
Cinquième question qui nous vient de Denis. C'est quoi le nombre de patchs qu'il faut privilégier pour faire un profil ICC précis?
C'est une très bonne question. Alors, j'aurais tendance, en rigolant, à dire...
Moi, je me rappelais de la TC 918 qui avait donc 918 patchs.
Non, mais alors, je dirais presque que tout dépend du temps qu'on a. Parce qu'évidemment, plus il y a de patchs, plus ça va être long. Honnêtement,
que c'est vraiment plus précis?
Non. Oui, alors évidemment, ça va être plus précis parce que ça va aller chercher sur des valeurs assez extrêmes. Mais déjà, sur le nombre de patchs de base, si de mémoire est bonne, ça doit être 256. Ça donne déjà très, très, très bons résultats. Maintenant, moi, j'utilise plus de patchs, mais parce que je vais chercher des couleurs un peu loin.
Et on pense évidemment à toute la manipulation de mesures de tous ces patchs qui peut être une galère intergalactique, surtout si ça plante sur l'avant-dernière ligne et qu'il faut tout recommencer.
Juste, mais à parté par rapport à cette question, mais effectivement, il y a des profils, quand on les fait chez soi avec nos solutions, c'est des profils, on les mesure à la main. Bon, évidemment, quand on se tape, si c'est 900 patchs, c'est long. Mais pour les professionnels, plus il y a de patchs, mieux c'est. Et puis, il y a des outils automatisés qui permettent de mesurer les patchs.
Daiwanio,
par exemple, et d'autres. Hein. Chez Barbieri, il y a des outils aussi. Mais là, on est dans des solutions
Jefferson
professionnelles.
Aussi, il y avait un modèle qui était intégré dans une bécane qui ravalait le papier pour le mesurer.
Oui, alors, mais attention, il ne faisait pas une calibration de X patch, c'était une linéarisation, etc. C'était un spectroprofeur, en fait, qui était intégré à pas mal de machines. Mais disons que pour l'amateur et l'expert, 256 patchs, c'est bien déjà.
Hein. Ok. Et pour terminer, une question de mes soins, une question qui tue. Patrick, pour la précision et le rendu couleur, Canon ou Epson?
Si t'as les moyens, les deux.
Oh non, c'est pas une réponse, ça.
Si t'as pas les moyens, l'un ou l'autre, parce que honnêtement, non, mais...
C'est moi, comme Canon ou Nikon, quoi.
J'utilise les...
Question qui tue, quoi.
Non, c'est plus sournois. Mais en fait, honnêtement, aujourd'hui,
on va rendre
pour répondre à cette question, là, j'ai chrono aussi. Hein. Alors, Epson a largement contribué à la démocratisation du jet d'encre. Et on va dire, là, on oublie. La digigraphie n'est pas pour rien. Aujourd'hui, Canon, Epson, c'est au top des deux côtés.
Ok, ça marche. Allez, on conclut le quiz là-dessus. Merci, Patrick. Nous voilà à la fin de cette émission. Merci infiniment, Patrick, d'avoir une nouvelle fois accepté notre invitation et d'avoir partagé toutes tes connaissances avec nos auditeurs. On le rappelle, ton exposition encore pendant quelques jours à Fécamp. Mmh. Les autres actualités en ce qui te concerne, où allons-nous pouvoir te lire prochainement?
Réponse photo tous les mois, ça déjà. Je me cache au numérique sous un pseudo. Mais ouais, c'est juste pour le dire. Je prépare pour l'année prochaine les 20 ans de ma série Coq en stock. Donc, je ne sais pas encore comment ça va se faire, mais je suis en préparation là-dessus. Puis après, je fais beaucoup de tests et d'essais pour des fabricants de papier. Je fais des tests avec Epson et Canon aussi. Voilà, un petit peu mon actu en ce moment.
Bon, moi, en tout cas, une nouvelle fois... Grand merci d'être venu à nos micros. La semaine prochaine, on continue notre série d'émissions. On est vraiment dans la continuité, Benjamin, cette saison. On continue notre série d'émissions sur les montures optiques. Après la monture X, nous allons nous intéresser à la monture L en compagnie de Ronnie Studient de la boutique IPLN.fr. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast hebdo pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cet épisode vous a été présenté par MPB, qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici la fête de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.